je le trouve très beau, Plaza.
Ah oui?
Ah oui. Si j'avais pas Michel, je pense que je le draguerais.
Michel, c'est votre mari?
Michel, c'est mon mari, oui.
Toujours vivant, donc.
Ouais,
ça me rassure quand même, hein. Je vais veiller à son âge.
Et regardez Stevie, très en forme. Hein.
Ah,
il est en train de rattraper votre poids, Bernard.
Oh, non.
Il est pas loin.
Non, mais je dois me confier, c'est vrai que j'ai grossi.
Ah oui, oui, mais énormément.
Mais confie-toi.
Non, pas énormément, un petit peu. Mais je vois parce que, en fait, j'ai une façon pour voir si j'ai grossi, c'est que je joins mes pieds. Si mes cuisses se touchent, c'est que j'ai grossi. Parce que normalement, quand je serre les pieds, mes cuisses se touchent pas. J'ai un écart entre les cuisses.
Qu'est-ce que t'es chochote?
Et là, ça.
T'as un écart
là, c'est deux
entre
steaks,
les cuisses. Hein. Non, mais attends.
Mais il y en a pas mal qui l'ont visité.
Non, mais c'est vrai, je vous assure. Alors là, j'ai les deux cuisses qui se touchent quand j'ai les pieds joints, c'est affreux.
Ah, l'écart entre les cuisses aussi.
Mais non, mais quand je marche, ça frotte. Alors que moi, mes cuisses,
ça frotte. On m'avait dit qu'il était con, mais pas à ce point-là.
Mais non, mais je suis obligé de mettre de la biafine quand je m'imagine.
Ah, t'es en surchauffe.
Je vais te dire, moi, je frotte des fesses, des cuisses, des rotules, je frotte de partout.
T'es un frotteur.
C'est vrai que t'amènes tes burettes pour me mettre un peu de lubrifiant.
J'ai honte, Ariel, vous entendez? Heureusement, vous n'êtes pas atteinte et concernée par ce genre de propos, car rien ne frotte chez vous.
Vous voulez dire... Oh,
d'ailleurs, même à domicile, on vous a rarement vu frotter.
Entre les deux cuisses...
C'est vrai que je n'ai jamais frotté le parquet.
Ça m'en doutait un peu.
C'est dommage.
Tu perds du plaisir.
Mais en même temps, je me dis, toutes les cires d'abeilles, tout ça, c'est très voluptueux.
Et les carreaux, vous avez déjà fait les carreaux?
Non, mais il paraît qu'il y a un produit miracle.
Oh oui,
oh
oui,
bien sûr.
Oui. Ça s'appelle la pluie.
Et la vaisselle.
Et ben, bon, bon, ça vaisselle, m'est arrivé. Non. Mais Stevie, vous êtes bon en vaisselle?
Ah, moi, je fais tout, moi. Moi, je suis un homme d'intérieur, vraiment. J'aime faire mon ménage, je fais mes carreaux,
je fais ma vaisselle.
Un homme d'intérieur, on l'appelle Lasco.
C'est fait du logis.
Non, moi, j'aime bien frotter, ça fait faire du ménage. Je mets de la bonne musique. C'est Abba, par exemple, pour faire les carreaux, c'est génial.
Abba pour faire les carreaux, vous conseillez?
Ah ouais, j'aime bien. Mais toutes les chansons. Ma mamie, tu sais, le geste en est.
Ma mamie.
Mais oui, t'es venu comme ça.
Non, mais il est taré.
Mais j'en ai entendu des conneries ici. Hein.
Ça me rassure, moi, quand il y a Stevie, finalement. Je suis moins con.
Allez, une citation pour Julie Barbet, qui habite à Chamonix, qui a dit « L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si on songe à l'époque où il fut créé ».
Ah, c'est une femme, alors?
C'est un homme qui a dit ça. Ah, non, c'est l'homme au sens général. L'être humain, si vous préférez. Je peux vous la refaire en disant l'être humain. L'être humain est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si on songe à l'époque où il fut créé.
Ça peut être une femme aussi. La femme est imparfaite, mais...
Oui, mais l'être humain, c'est une femme, vous voyez aussi.
Alors, c'est un homme ou une femme? J'ai pas compris.
Bon, c'est un homme.
C'est un homme. L'humanité.
Il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Bon.
Il a pas frotté. C'est le Néandertal. Finalement.
Qu'est-ce qu'elle raconte?
Ils écrivaient pas.
Vous, c'est plutôt
le Néandertal. Est-ce que c'est le nez en trompette? Alors le Néandertal.
Non, mais là, il s'agit de retrouver qui a prononcé cette phrase. Je vous le rappelle.
Est-ce qu'il est mort?
Laurence.
Il est mort.
C'est un Français? Un Français?
Un Français.
Des proches?
Des proches, non.
Blaise?
Buffon.
Pardon?
Blaise, Pascal?
Ah, oh, Blaise. Oh. Je pensais qu'il l'appelle Blaise. Je pensais qu'il parlait du type qui racontait des blagues dans la classe.
Blaise Matuidi?
Non, mais Pascal, non?
Non, ce n'est pas Pascal.
Humoriste?
Humoriste, oui, un des plus grands.
Alors, Coluche.
Avant quand même.
Jean-Yann.
Avant encore.
Pierre Doris.
Avant encore.
Allez.
Alphonse. Allez, allez.
C'est
bonne
pas ça.
Réponse de Bernard Mabille. Ah. Une autre citation pour Fabrice Duflou, qui a dit « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin ».
Ah bah oui, c'est connu, ça, c'est Francis Blanche.
Ce n'est pas Francis
Blanche.
C'est quelqu'un comme ça.
Pas Coluche.
Oui, c'est Jean-Yann, non?
Groucho Marx. Oui,
ce n'est pas Groucho Marx.
C'est Woody Allen.
Mais c'est Woody Allen. Bonne réponse de Florian Gazan. Allez, on va monter un peu le niveau, qui a dit « Faites comme moi, épousez un archéologue, c'est le seul homme qui vous regardera avec de plus en plus d'intérêt à mesure que passeront les années. »
Madame Macron.
Non. Oh.
Agatha Christie,
bonne réponse de Florian Gazan.
Oh, il est trop fort, c'est fort.
Une question pour Mokran Seloum, qui habite Melun. La docteure Sylvie Abraham nous dit que c'est surtout fréquent chez les sportifs, les pompiers, les policiers, mais aussi, et ça on le savait peut-être moins, les informaticiens. Mais qu'est-ce qui est fréquent chez ces catégories professionnelles?
C'est la crampe de quelque chose.
Non.
Une tendinite.
Une tendinite, non.
Le micro-pénis.
Alors, on n'est pas loin.
Mais je sais, Sylvie Abraham, elle est chirurgien du sexe.
Les pannes sexuelles.
Comment vous savez ça?
Mais parce que j'ai déjà interviewé.
Sylvie Abraham, effectivement, est chirurgienne plasticienne. Alors, voilà. Expliquez.
Eh ben, elle fait notamment des opérations qui permettent d'allonger le pénis.
Bonne réponse! Bonne réponse de Karine Le Marchand.
Ah, c'est marrant, ça.
C'est elle qui a opéré John Lennon. Elle chantait les petites bites, les petites.
Mais elle dit en tout cas que ses clients sont soit des sportifs, soit des pompiers, soit des policiers. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans les vestiaires avec d'autres hommes.
Et
par comparaison, s'ils ont un trop petit sexe, ils ont un peu honte.
C'est pas parce qu'ils ont une plus petite bite que les autres, c'est que ça se voit davantage.
Exactement.
Vous imaginez les ravages de Makelele?
Non, c'est pas ça l'histoire.
C'est qu'ils ont plus honte.
Non, c'est pas qu'ils ont plus honte, c'est qu'ils ont quand même un petit truc au départ. Mais que c'est pas les femmes avec lesquelles ils ont des relations sexuelles qui leur font sentir que leur engin est trop petit.
Oui,
parce que d'abord, on peut avoir au repos un petit sexe qui a un fort déploiement en érection.
Et on peut avoir à l'inverse des déceptions,
mais
ça m'est arrivé.
Hein. Les hommes entre eux sont très méchants.
Non, mais c'est vrai. Parfois on voit des trucs énormes. Et puis, non, mais parfois. On imagine.
Mais en revanche, ce dont les hommes souffrent le plus, parce qu'ils se moquent beaucoup de ça, c'est effectivement dans les vestiaires. Quand ils voient quelqu'un, donc évidemment, repos, en train de se laver, et c'est là où ils vont se moquer.
Le syndrome du vestiaire.
Voilà.
Alors, entendons-nous, hein, on ne dit pas qu'il y a plus de petites bites chez les sportifs, les pompiers, les policiers que chez les autres. C'est simplement que dans ces catégories professionnelles-là, il y en a autant que dans les autres métiers.
Ouais. Mais ils ont les couilles de se faire opérer.
Voilà.
C'est-à-dire que ce sont des petites bites qui complexent davantage.
Voilà, qui vont plus souvent que les autres se faire opérer parce que les autres n'en ont pas spécialement besoin.
Oui, boulanger, on ne monte pas sa teub à tout le monde.
Chez les huissiers, on ne touche pas ensemble. Quoi.
Alors, vous allez me dire, parce que je vois que vous ne me posez pas la question.
Quelle est la taille moyenne?
Non, mais non, mais vous oubliez un truc. Mais pourquoi alors les informaticiens? C'est parce qu'ils sont obsédés par la mesure statistique. Voyez.
Ah, ils veulent être dans la moyenne.
Ils veulent être dans la moyenne, les informaticiens.
Voyez. Oui, mais alors quelle est la moyenne? C'est ça la vraie question.
Alors moi, je vais vous le dire parce qu'elle donne la réponse,
c'est
la dame.
Pas beaucoup. Hein.
Il va être rassuré, beau grand.
Non, je maîtrise
mais
déjà
attendez,
pas mal.
Pourquoi il n'y a pas les charcutiers dans votre truc?
Ben, les charcutiers montrent pas.
Ben, attendez, ils sont entourés de saucissons toute la journée. Le ventre, ça lui fout quand même quelque chose, non? Oui.
C'est vrai qu'un gros salami, ça te fout les complexes. Quand même.
Bien sûr.
Les éleveurs d'ânes aussi. Hein.
Oui, bien sûr.
Les marins,
Pour un âne, j'ai une petite bite. Mais pour un homme, elle est énorme. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'emmener mon fils au gros statut.
Vous connaissez l'histoire du gars qui il est au bistrot avec son copain et puis il y a un bossu qui rentre.
Un bossu. Souvent, il y a des bossus qui rentrent au bistrot.
Voilà, et il regarde le gars, il fait « Tiens, vous êtes bossu là ?»« Ouais, je suis bossu. » Vous pouvez nous montrer votre engin? Parce qu'il paraît que les bossus, souvent, ils en ont une grosse. Le gars, il leur montre. Putain, un appareil. Oh, les gars, il fait, oh la vache. Mais alors, vous puvez vous sucer tout seul? Et l'autre, il fait, bah oui, c'est pour ça que je suis bossu.
Elle est bien. Je la connaissais pas. Ah, j'aime bien quand il y en a une nouvelle comme
bien.
Ça.
Elle est bien. Ouais.
Bah, la taille, elle le dit, le docteur.
Ah oui, c'est combien?
C'est pas beaucoup.
C'est votre copine alors, le docteur Abraham.
Non, c'est pas ma copine, mais je la connais.
C'est sa bitologue.
Je peux même vous dire comment on opère et tout, mais je suis super calée.
Ah, c'est vrai, Sylvie Abraham explique qu'une taille satisfaisante, c'est un sexe de 10 cm de longueur environ. Et en érection, il atteint généralement 15 cm de longueur.
Vous avez un centimètre, madame, donc, voilà. S'il vous plaît.
Oui, non, c'est honnête. Ouais.
Non, mais ça rassure tout le monde, ça, parce qu'on est toujours là à dire que ça fait 30 cm. Ouais, pas du tout.
Non. Du tout.
Soyez rassurés.
Il y a beaucoup de gens qui disent 30 cm.
C'est handicapant.
Et voyez, Rocco Siffredi, on s'en fait des idées.
Non, c'est plus de 30.
Mais non, même pas.
27, 24.
C'est 26 cm,
ah, oui.
Rocco Siffredi.
C'est assez énorme.
Oui.
Alors là, franchement, si j'avais su, j'aurais fait du cinéma.
Bah oui. C'est très rare de tomber sur un rôti de porc pour 10 personnes.
D'ailleurs, il dit, il m'en reste un peu plus, je vous le mets quand même.
Là, mon fils, il se dit donc, on peut gagner sa vie en parlant de bite à la radio.
Non, c'est papa a acheté sa maison grâce à ça, surtout.
Tu sais, on raconte des trucs comme ça, qu'est-ce quand ton papa est là.
D'habitude, on se tient vachement
bien.
Je
suis gêné.
Ah, vous nous emmerdez tous.
Allez, maintenant on a un quiz sur la chatte.
C'est vrai qu'il fait moins le mariol quand il y a son fils.
Ah, vous nous emmerdez, ma fille, tout le temps à nous dire des horreurs.
C'est vrai qu'il fait moins de blagues que d'habitude.
Sous prétexte qu'il y aurait le garçon, quel âge il a votre fiston, vous m'avez dit. Sous prétexte qu'il y aurait votre fiston de 12-13 ans, alors d'un seul coup, eh ben on va se venger tous. Pite, cul, trou de
chatte,
Michon, chatte, enfilé, salope,
cunilingus,
chienne.
Quelle horreur.
Ah, vous nous emmerdez, alors, sous prétexte que Monsieur Baffy Junior serait là, il faudrait que d'un seul coup on fasse de la poésie.
Et t'inquiète pas, Bastien, dans 20 minutes, je t'en mets la dasse.
En tout cas, cette interview du docteur Abraham, pour ceux que ça concerne, est évidemment très intéressante. On appelle ça évidemment une pénoplastie, hein, au cas où vous l'ignoreriez.
Oui.
Et c'est une intervention dans laquelle la France est en pointe, il faut le savoir.
C'est le mot.
Et en balotage.
C'est vrai. Et donc, ceux qui sont intéressés, voilà, c'est souvent à cause du complexe du vestiaire.
Du vestiaire.
On appelle ça le complexe du vestiaire. Et voilà pourquoi, non, je le répète, hein, c'est pas que les sportifs, les pompiers, les policiers soient.
Les charcutiers.
En tout cas, merci d'avoir fait court sur le sujet.
Quoique les culturistes avec la gonflette, ça leur fait, ça leur raccourcit un peu le bazar.
Ah oui.
T'es vraiment venu le bonjour, Bastien. Ouais.
Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, Olivier de Kersauzon. Pourquoi vous ne nous emmenez pas vos enfants, vous, Olivier?
Ils sont tous morts de vieillesse.
Vos propos vont me faire passer pour raffiné, moi.
C'est voilà. Vrai que moi, pour une fois que j'ai une bonne réponse, c'est sur les bites. Bon.
L'amour est dans le prépuce.
Et la question donc concerne Emma Bovary et particulièrement sa fille, car vous le savez, elle est évidemment déçue de sa vie monotone, hein, c'est tout le principe et toute l'histoire de Madame Bovary, et aussi déçue par la naissance de sa petite, puisqu'elle aurait préféré mettre au monde un garçon, Emma. Et même, elle trouve l'aide, sa fille, qu'elle confie très vite à Madame Rollet dans le roman. Mais quel prénom a la fille d'Emma Bovary? Le mari, c'est Charles.
Charles, ouais. Est-ce que c'est un nom qui est encore porté aujourd'hui?
Un peu moins, mais ça peut revenir à la mode. D'abord, c'est un prénom qu'on cherche, hein, vous l'avez bien compris.
Bien sûr, bah, je ne suis pas débile.
Jessica.
Jessica.
Nabila. Beverly.
Est-ce que vous vous souvenez au moins du nom de l'amant de Madame Bovary, Jean-Pierre Coff?
C'est si vieux.
Il ne s'appelait pas. Il n'y a pas un truc.
DSK, non.
En Olf. Non, c'est pas Olf.
Rodolphe Boulanger.
Rodolphe.
Est-ce que la fille s'appelle pas Hortense ou quelque chose
pas
comme ça?
Pas du tout. Non, mais là, je pensais que la réponse allait fuser, que vous connaissiez tous la petite...
Ariane?
Ariane, non.
Bah oui, si ça fusait.
Pierre Lage.
Très bien.
Parfois, vous avez raison, Gérard. Il m'arrive parfois de donner des indices de cette façon. Mais là, c'était pas le cas.
Est-ce que c'est un nom composé, non?
Pas du tout. C'est un prénom tout simple que tout le monde connaît.
Marie?
Non, pas Marie.
Juliette?
Non, Juliette, non.
Attendez, Charles et Emma ont fait une fille qui...
Quand même, il y en a eu des films autour de cette œuvre de Flaubert.
Ben oui, mais comme je me suis fait chier à lire le bouquin, j'ai pas vu les...
Vous avez fait chier à lire Madame Bovary?
Oui.
Le plus grand livre, peut-être un des plus grands livres de tous les temps.
Mmh. Oui,
mais... Et tu dis à la radio devant 10 millions de gens,
bah,
tu fais chier à lire Madame Bovary?
Parfois, je me fais chier à t'écouter, tout ça. Un des plus grands hommes de tous les temps.
Franchement, monsieur Bénichou, si c'était, comme vous le dites, le livre le plus grand de tous les temps, vous connaîtriez le nom de la petite dans Madame Bovary?
Non. Non. Ça se termine pas à...
Ah non, ça se termine pas par A. Bah écoutez, ça va faire 300 euros. On n'a pas encore donné depuis le début de cette émission.
C'est genre Léontine
Non.
J'ai dit Jean-Pierre, non.
Non, Jean-Pierre.
Léopoldine. Suzanne.
Non.
Suzanne.
Non, la petite Bovary. Alors,
Colette.
Bon, elle n'était pas très jolie, en tout cas.
Elle voulait pas de fille, elle l'avait appelée par un nom de garçon.
Par un nom de garçon
Non. C'était quand même un prénom féminin.
Est-ce que c'est un prénom qui peut être utile pour fille et garçon, comme Gabriel
par... Pas du tout.
Pas du tout. C'est un prénom.
Ah, ou alors vraiment. Peut-être aux États-Unis, il y a une version...
Laurence.
Non.
Est-ce que c'est un nom en deux syllabes?
Non, c'est très court. C'est...
Léa.
Ah non.
Zaz.
Non. Non, écoutez, Zaz Bovary.
C'est un nom court.
Ah, ouais. Monsieur Bénichou, c'est pas la peine de nous dire que c'est soi-disant l'œuvre la plus célèbre de Flaubert.
Elle a un tout petit rôle, la petite.
Oh, la mauvaise foi de
elle est comme vous, elle a été coupée au montage.
Ouais. Lisa?
Non, pas Lisa, non.
Lise?
Ah, j'étais persuadé vraiment que vous connaissiez le nom.
Encore
de la...
plus Élise. Court
que... Non, la fille Bovary, vous voyez. Ah, si vous connaissez une pièce de théâtre célèbre, le prénom peut vous revenir.
Antigone,
je vous aide.
Gone.
L'Alouette.
Alouette, non.
Imaginaire.
Non.
Tchekhov. Non. Attendez.
Tchekhov, c'est pas un prénom, Tchekhov.
Non, mais une pièce de Tchekhov.
Non, non, non.
De Molière.
Non, non, non.
Oui.
Cyrano.
Oui, oui, c'est la petite qui avec le chat. Le chat
qui
est mort.
Avec le chat
pas le seul.
Agnès.
Agnès.
Agnès, pas du tout.
Non. J'y ai cru.
Il vous reste 30 secondes pour trouver ce prénom féminin. Je suis désolé, évidemment, pour tous les fans de Flaubert qui nous écoutent sûrement, tous ceux qui ont lu Madame Bovary. Est-ce qu'il y a dans la salle Rita qui connaît le nom de la jeune fille en question? Levez la main. Qui connaît?
Elle
est belle, la France.
Voilà.
Qui c'est qui a dit Rita?
Qui a lu Madame Bovary?
Moi, j'ai dit Rita.
Qui a lu déjà Madame Bovary? Il y en a quand même. Personne n'a retenu le nom de la petite.
Non.
Alors,
vous-même, vous le connaissiez, le prénom?
Tout de suite, écoutez, j'aurais été à votre place, mais alors, tout de suite, j'aurais fait un chèque de 300 euros à...
Ça, c'est honnête.
À monsieur pionnier de cours de péage.
Bon, ça va, c'est rassurant.
Lola?
Lola, non.
Non, trop moderne.
Non, mais quand même, quand j'ai revu le prénom, ça, c'est revenu à ma mémoire. Quand je vais vous le dire, vous allez tous faire
Béa.
Berthe. Berthe. Berthe Bovary.
Vous avez raison.
C'est vrai qu'il y en a plus beaucoup.
Alors, c'est quoi la pièce de théâtre avec Berthe?
Adieu Berthe. Adieu Berthe avec Francis Blanche.
Ah oui, j'aurais plutôt pensé à Berthe au grand pied. Mais...
Berthe quand même.
Au grand pied.
Oh, ouais.
Bah oui, c'est moche Berthe.
La petite Berthe.
Elle était toute blanche.
Ah, une question cinéma pour Ludovic Declercq, c'est mercredi aujourd'hui, et Valérie Mérès, qui suit l'actualité cinématographique, c'est normal, c'est une actrice, évidemment, elle est intéressée par les sorties de films. Aujourd'hui, il y a un film québécois, ou canadien, un drame canadien, qui s'appelle Antigone, qui sort. Alors, c'est évidemment une version très moderne d'Antigone. Et évidemment, vous pouvez me citer Jean Anouilh, vous pouvez me citer Claudel, il y a eu des tas d'auteurs qui ont repris le thème d'Antigone, mais quel était le premier auteur?
Sophocle.
Oh là là. C'est vous qui avez dit ça?
Mais oui, mais évidemment.
Excellente réponse de Johan Rioux.
Et finalement, c'est Johan qui va choper Pablo Mira.
Faudrait... Il s'appelle Mira, pas Miro. Hein. Sophocle, vous pouvez me raconter l'histoire d'Antigone, alors peut-être, monsieur Rioux.
Alors, moi, je peux la raconter.
Alors, allez-y. Marcella.
Alors, c'était Antigone, c'était quelqu'un qui avait un frère qui avait transgressé les lois de la cité. Alors, Créon, qui était le roi, voulait
tu peux prendre le relais.
Non, mais attends. Le condamner à mort et n'est pas l'enterrer. Et alors, elle
c'est pas clair,
Mais c'est elle voulait l'enterrer son frère.
Oui.
Et elle disait, alors elle s'y opposait à la loi de la cité.
C'est son oncle qui voulait pas.
Oui, Créon. Alors, elle voulait
le frère de sa mère, Jocaste.
Elle a transgressé les lois de la cité pour enterrer son frère.
D'accord.
Et c'est ça.
Qui avait lui-même transgressé les lois de la cité.
La transgression,
ça donne
compliqué.
Vachement envie.
Parce que toi, tu n'as pas un sens moral. Parce que c'est justement l'importance qu'il y a. Plus important que la loi, c'est la morale. Et toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais être délinquante.
Mais elle ferait une superbe Antigone, fille d'Oedipe, évidemment, notre amie Valérie Mérès. Et c'est vrai qu'il y aurait Créon, il y aurait Ismène. Et je vous vois bien, j'en fie aussi jouer, je sais pas moi,
un arbre. Petit buisson. Non. Un truc, ok, il n'y a pas beaucoup de paroles, pas beaucoup de répliques.
Un gland, plutôt. Un gland.
Il y a la nourrice, il y a Eurydice. Créon, on peut jouer le frère de Jocaste, Créon.
Oui, voyez. Voilà.
Vous connaissez les grands classiques, quand même.
Et moi, je joue Jocaste.
Voilà. Alors, il y a Antigone d'Anouilh, il y a Antigone de Sophocle, il y a Claudel, il y a plein d'Antigone, hein, autant vous dire, ça a vraiment inspiré de nombreux auteurs. Mais là, vraiment, je suis épaté, monsieur Rioux.
Oui, mais il ne connaissait pas l'histoire, alors.
Mais on est un couple.
C'est moi qui connaissais l'histoire. Désolé, hein, mais c'est facile de dire Sophocle, il ne connaît pas l'histoire.
La peluche, elle n'existe plus.
Elle va se faire arracher les poils.
Il y a eu Bertolt Brecht, il y a eu Cocteau, il y a eu Marguerite Yourcenar qui s'est intéressée aussi à Antigone. Autant d'auteurs qui se sont effectivement inspirés de l'œuvre de Sophocle. C'était une excellente réponse de Johan Rioux. Quelle était l'ancienne monnaie française qui valait un demi-denier?
Un sesterce.
Un sesterce, non.
Le liard.
Le liard, non.
Le sou.
Non plus.
Le ducat.
Non.
Le louis.
C'est pas l'écu,
non.
Bien sûr.
Un demi-denier.
L'esterlin.
Non plus.
Le denier-denier.
C'était au Moyen-Âge ?
Ah, c'était au Moyen-Âge, effectivement. On est à l'époque médiévale.
Le don.
Sous l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution,
ah oui.
Un demi-denier, c'était...
Un sou ?
Un sou, non.
Un louis ?
Un louis, non.
Est-ce que c'était la moitié du denier ?
Ah oui, ça je vous confirme. Voilà.
C'est un mi-denier.
Vous progressez.
Je suis sur la voie.
Ça pas un nom de plante.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Par contre, Daniel ne progresse pas.
Du foin.
Du foin, non.
Ouais, de l'oseille.
C'était pas un nom de roi.
Tout le monde connaît ce mot, mais vous ne savez pas que cela correspond à un demi-denier.
Un clou.
Un clou, non.
Est-ce que
un rouble.
Alors, on dit qu'on connaît le mot. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui dans une expression qui parle d'argent?
Du flouze.
Tout à fait, du flouze, non.
Un rouble.
Un copec.
Un copec, non.
Un popec.
Une thune.
Pardon.
La thune.
La thune, non.
La thune, attends.
C'était déjà une monnaie du temps des Grecs, dans l'Antiquité.
Les Grecs.
J'ai pas un radis. Non, c'est pas un radis.
Non.
Un déca.
Nom du radis.
C'est une monnaie utilisée dans l'Antiquité grecque et en France, au Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution.
Donc, c'est dans une expression qui désigne l'argent.
Oui. Ah, elle est bien cette question. Claire Merlot va sûrement toucher 300 euros.
Donc il y a une étymologie grecque.
Oh, ça oui, si vous voulez. Oui.
Il y a 300. Le Mohican. Le demi-denier des Mohicans.
Elle est bien
celle-là. Le denier des Mohicans.
Je l'aime bien.
Est-ce qu'il y a deux syllabes?
Vous n'êtes pas le denier.
Deux syllabes?
Deux syllabes avec une syllabe muette à la fin.
D'accord. Flouze?
Flouze, non.
Le tel?
Le tel, non.
La roupie.
Qui roupie ici?
De Sansonnet.
Le pécule.
Ah, le pécule.
Au fond du couloir à gauche.
Évidemment.
Il n'y a plus de pécule.
Voilà. On essaye de chercher, on fait des allusions graveleuses sur le cabinet.
Absolument.
Maintenant.
On connaît tous l'expression c'est pas de la roupie de Sansonnet,
non.
Que Frédéric Dard traduisait en de la roupette de Sansonite.
Oui. Une monnaie de cuivre qui valait un demi-denier. C'est pas grand chose. C'est la moitié d'un denier. C'est pas grand chose. C'est donc.
C'est quand.
Un nier.
Il y a un chiffre, c'est comme le 1.
Non, c'est pas un chiffre.
C'est pas Bézef.
Bézef, non.
Ah, c'était pas mal, Bézef.
Est-ce qu'on peut le faire avec les mains? C'est.
Donc ça concerne une.
Qu'est-ce qu'elle raconte?
Si, ça vient. Est-ce qu'on peut le jeter? C'est pas grand chose, c'est de la.
Ça concerne.
C'est de la. Ah, mais elle est pas toute seule. Hein.
Ça désigne une petite somme d'argent un peu ridicule, c'est ça?
Oui, ça c'est.
Une obole.
Pardon?
Une obole.
L'obole.
Ben oui.
Ouais. Bonne réponse de Jean Benguigui.
Bravo, Jean.
Ah, il est fort.
Ah, il est fort.
C'est pas l'obole.
La peine de marquer quelque chose en face de moi.
Une obole.
Ah oui, il y a notre auditrice qui manque d'obole
c'était
aujourd'hui.
C'était aussi ce qu'on donnait pour
comme
le mort
pour
quand il passait le Styx.
Donner l'obole.
Il
y a un rapport avec pourboire. Toi, tu dis obole. Est-ce que ça a un rapport avec pourboire?
Ah non.
Non, aucun. Non.
Aucun.
Ah bon? Pourboire.
Sauf si tu demandes une coiffure au bol chez le coiffeur et que tu donnes un pourboire au garçon coiffeur.
Mais donc c'est vrai que la coiffure, par exemple, de Mireille Mathieu,
elle est au bol.
C'est une coupe au bol.
Elle vaut pas grand chose, c'est une coupe au bol.
Voilà. C'est vrai, monsieur Ruquier, j'ai une coupe à chier.
Et celle de Jean Benigui, c'est pareil, c'est au bol, mais on avait retiré le bol.
Bon, et alors... c'est Gueluc qui en parle. Non, mais je m'en vais.
Entre chose. Justement, on avait mis le bol pour couper autour du bol.
Oui. Mireille Mathieu, elle saurait chanter Marie Pervenche.
Oh mon Dieu, mais un papillon par-ci par-là dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Et si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue, sous ma panoplie de gendarmes, bat le cœur d'une femme.
Ouais, c'est ça, oui.
Mais attendez, excusez-moi, il y a eu deux génériques à Marie Pervenche, parce que je préfère le deuxième, le deuxième des années 90.
Envoyez-le au salon agricole.
Le deuxième était encore mieux.
Ah ouais, le deuxième, vous le faites, je veux bien, mais avec la voix de Carla Bruni.
D'accord.
Attendez, juste avant de truc, promettez-moi une chose, Laurent, c'est de ne pas le repasser dans le best-of ce week-end. On va devoir l'entendre quatre fois en tout.
Si, vas-y.
Marie Pervenche, le charme et la loi, mission, mystère, en veux-tu, en voilà, c'est égal, et soudain, ce gars-là, Miss Détective est passé par là. Marie Pervenche, elle est comme Attila, là où elle passe,
c'est
en droit,
c'est pas que j'aime ça, mais pendant ce temps-là, je me mouche.
Change, Marie Pervenche va passer par là.
On peut quand même l'applaudir.
Oh, allez.
Une autre question, on enchaîne avec Adèle Rabois qui habite Sainte-Clotilde sur l'île de la Réunion. Une question culturelle puisqu'il s'agit de retrouver tout de même une chanson. Donc tout le monde normalement doit pouvoir retrouver ça, une chanson. Hein, vous êtes d'accord?
Oh oui, surtout une chanson réunionnaise.
Mais non.
Il est con.
Mais il a rien compris au principe de cette émission.
Il est rien.
C'est Madame Rabois qui habite à La Réunion.
Non.
Il s'agit donc de retrouver une chanson. Ça, normalement, c'est à la portée de tout le monde.
Arrêtez quand vous dites de porter tout le monde de me regarder fixement dans les yeux.
C'est vrai que c'est assez ciblé, hein.
Une chanson qu'on doit à un monsieur qui s'appelait Bécourt, violoniste au départ. Il a composé une, ce qu'on appelle d'ailleurs une contredanse. Hein, une contredanse, c'est pas seulement une amende qu'on vous met sur votre pare-brise. Ça s'appelle une contredanse qu'il a d'ailleurs appelée dans un premier temps le carillon national.
Ah.
Jusqu'à ce qu'on mette des paroles sur cette chanson. Mais c'est de drôle. Quelle chanson s'agit-il?
Et pourquoi vous ne donnez pas son prénom à ce Bécourt? C'est Gilbert.
Non. Oh non, écoutez Christophe. Non,
est-ce que vous pouvez nous dire simplement une phrase du couplet?
Suivant les maximes de l'évangile du législateur, tout s'accomplira. Voilà, une phrase.
Wow. Sympa comme chanson.
Mais c'est une chanson qu'on connaît tous.
C'est un slow.
Le curé de Camaret.
Ouais.
On connaît plus le refrain, évidemment, que la chanson.
Enfin, c'est sans chemise et sans pantalon.
Ah non, pas sans chemise et sans pantalon.
Avec
enfin, sans chemise et sans pantalon, c'est Rick Azara.
Est-ce que c'est une chanson plutôt joyeuse?
Mais non, c'est une vieille chanson qu'elle a reprise.
Est-ce que c'est joyeux
comme... Nous allons danser.
D'accord. Ouais, non.
Sans chemise, sans pantalon. C'est une vieille chanson.
Mais c'est Rick Azara. C'est Rick Azara.
Elle a repris.
Mais non.
Une chanson ancienne.
Une chanson ancienne, oui, Christine.
Vous pouvez répéter cette petite phrase que vous avez dite de la chanson?
Alors, je ne vous ai pas donné le refrain, parce que le refrain, ce serait trop facile, là, c'est le titre de la chanson. Mais, entre autres, parmi les vers de couplet, on peut, je vais vous en donner un ou deux, suivant les maximes de l'évangile, du législateur, tout s'accomplira, ou encore, le vrai catéchisme nous instruira et l'affreux fanatisme s'éteindra. Vous voyez que...
Mais dis donc, ce Bécourt était un petit, tout petit peu religieux, ou c'était anti-religieux?
Ou anti-religieux.
Il était un violoniste... Un violoniste du théâtre Beaujolais, mais je vous ai dit, lui, il a composé la chanson. Il n'en a, pas écrit les paroles.
Qui n'en a écrit les paroles?
Ah bah alors, les paroles, ça, c'est un peu plus compliqué à définir.
Et la question...
Est-ce que c'est en créole, les paroles, ou en français?
Pourquoi en créole?
Il est resté sur la Réunion.
Parce que ça se passe à La Réunion.
On parle de La Réunion.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous nous avez dit, mais en créole?
Mais ça n'a rien à voir avec La Réunion. C'est l'auditeur qui habite là, ou l'auditrice.
Ah bon,
Adèle Rabois qui habite La Réunion.
Est-ce que c'est une chanson un peu humoristique?
Alors, il a écrit une contredanse. Et d'ailleurs, la reine Marie-Antoinette adorait cet air qu'elle jouait souvent sur son clavecin. Mais il n'y avait pas encore de paroles justement à cet air qui s'appelait jusque-là le carillon national. Après, on y a mis des paroles et c'est devenu...
Le prénom d'une femme?
Non, du tout.
Donc ça veut dire que cette chanson a d'abord été chantée clavecinement, avec un clavecin.
Exact, pas chanter, jouer, parce qu'il n'y avait pas de paroles.
Est-ce qu'elle est dans le livre Le clavecin bien tempéré?
J'aime les moutons, là.
Le clavecin bien tempéré, c'est pour les gens qui apprennent le piano.
J'aime les moutons, non.
Rien à foutre.
Non, c'est pas ça, c'est la chanson.
Chanson paillarde ou pas, vous avez dit?
Ah non, c'est pas une chanson paillarde du tout.
C'est une chanson
paillarde. C'est la chanson qu'on a chantée à Marie-Antoinette quand on est venu l'arrêter.
Entre autres, oui.
Alors, on essaie de retrouver le titre d'une chanson qu'on n'a jamais entendue.
Est-ce que c'est une chanson qu'on étudie à l'école? Est-ce qu'on la connaît?
Mais oui, une chanson que tout le monde connaît.
Écoutez, Au clair de la lune.
Mais non, parce que les paroles...
Comme Le Bon Roi d'Atobert ou ce genre-là.
Non,
oui.
Les paroles qu'on vient d'entendre de Laurent ne me sonnent pas, moi, pardonnez-moi.
Non,
donnez-nous
mais c'est le refrain. On connaît surtout le refrain, il a dit.
C'est le refrain qu'on connaît, je ne vais pas vous chanter.
Alouette.
Le refrain, c'est le titre.
Alouette.
Si je vous chante le refrain, je vous donne le titre. Bon Dieu.
Mais n'hésitez pas.
Alors, redites-nous des bouts de couplets, parce que pour l'instant, ça nous arrive. Rien dit, voilà. Mais...
Pierrette et Margot chantent la guinguette. Réjouissons-nous, le bon temps viendra.
Enfin, tu veux mon zizi, Francky Vincent? C'est pas ça?
Mais non. Enfin, écoutez.
J'ai jamais appris ça à l'école.
Une des chansons les plus célèbres qu'on puisse connaître.
À ce point?
Mais vraiment, oui.
C'est pas la Madelon.
À la Claire Fontaine.
Mais non.
C'est pas Alain Delon.
Oh, écoutez, si je vous en parle et que je vous dis que ce Bécourt violoniste a composé au départ une musique que Marie-Antoinette.
J'ai perdu la tête.
Mais non. Non, écoutez, une des chansons. On est à quelle époque à ce moment-là?
Oh bah oui.
Vieux.
Chanson de la Révolution.
Révolutionnaire.
Ouf.
Juste avant, juste avant. Bah oui, juste avant.
On est, ah. en, on est en 1704. Alors, oui. Quand Bécourt compose
ça, ah, le... ça ira, ça ira, ça ira.
On bah, les réponse de François Rollin. Ça ira, ça ira. Question culturelle maintenant, ah, pour Julien.
C'est pour moi.
Non, ne dites pas « ah » quand je dis question culturelle, Plaza. Ou alors, on fait un truc, je dis aux cinq autres grosses têtes non, de ne pas répondre et je vous laisse répondre tout seul.
Là, on peut finir demain matin. Hein.
Quel célèbre médecin, monsieur Plaza.
Docteur Raoult.
Quel célèbre médecin est mort à 44 ans en Allemagne,
oh la vache, oh,
en 1904, tentant d'enrayer sa tuberculose galopante. Il a voyagé à l'étranger, passé beaucoup de temps à Nice, d'ailleurs, pendant les hivers 1897, 98, 1900, 1901. Il est allé en cure, une cure de lait de jument, parce qu'à l'époque, on disait que ça stoppait cette maladie finalement incurable. Quel est ce célèbre médecin ?
Freud ?
Freud, non.
Zivago ?
Zivago, c'est un roman, Zivago. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment existé.
Est-ce qu'il est plus connu parce qu'il a inventé quelque chose et que ça n'a rien à voir finalement avec le fait qu'il soit médecin ?
Alors, il n'a pas inventé quelque chose, mais c'est vrai qu'il est connu plus pour autre chose
que, maladie qui porte son nom, non ?
Que pour être médecin. Non, il n'y a pas de maladie
c'est
qui porte
son nom. C'est pas un aventurier, quelqu'un qui est...
Un aventurier, non.
Il a trouvé quelque chose, un vaccin ?
Quel médecin célèbre est mort en Allemagne ?
Coche.
Quoi ?
Koch.
Ah non, non, le Basile de Koch, vous voulez dire. Oui. Non, pas non. du tout. Non, il est connu pour autre chose qu'être médecin, mais c'est
c'était
vrai.
C'était un tueur en série.
C'était
en Allemagne, c'est ça ?
Il exerçait, il n'était pas allemand, mais il non. est mort en Allemagne.
Et français ?
Un français, non.
C'est important de savoir sa nationalité.
Oui, ça pourrait vous aider.
Un italien, peut-être ?
Un russe ?
Un russe, oui.
Donc, Poutine ?
Poutine. Il n'est pas mort, Poutine. Arrêtez de dire des conneries, Plaza. Il n'est pas mort, il n'est pas médecin.
Et... Il a écrit ?
Ah, il a écrit beaucoup. Oui.
Tolstoï ou Tolstoï ?
Alors, c'est ou Tolstoï ou Dostoïevski.
Tolstoï,
je ne sais
pas.
C'est Tolstoï.
C'est Tolstoï.
Il pense à Toy Boy, alors forcément.
Tolstoï fait du ski.
Non, mais c'est Tolstoï ou pas ?
Non, c'est ni Tolstoï ni Dostoïevski.
Alors, c'était un romancier aussi ?
Pas un romancier, non, un auteur, mais pas un romancier.
De théâtre ?
Voilà.
Tchekhov.
Ah.
Et c'est Anton Tchekhov. Bonne réponse de Philippe Manœuvre.
Je pensais que c'était Stéphane.
Eh ouais.
Comment ?
Ah bah non,
on pensait que c'était toi.
Bah ça aurait pu, mais il l'a dit plus vite que moi.
Vous, quand même, vous êtes capable de me citer au moins un titre d'une pièce de Tchekhov.
Le médecin malgré lui.
La mouette.
Il n'y a pas le fou ou la folie.
Mais non, mais
la mouette.
La mouette, la cerisée, par exemple. C'est sa dernière pièce, d'ailleurs, la cerisée.
Oui, vous voyez, quand même.
À Tchekhov.
C'est la dernière.
Les trois sœurs aussi, c'est peut-être la plus connue. Mais il était médecin.
Mais même malgré lui, quand même.
Si vous voulez.
Vous voyez, c'est le jeu de mots que vous n'avez pas compris, que je suis obligé de vous expliquer. Ah, la culture, c'est pas donné à tout le monde. Hein.
Ah non, mais c'est pas possible. Hein. J'ai un peu peur d'ailleurs, Christina Cordula, autant vous dire, parce que vous êtes installée à côté de Jean-Marie Bigard, et avant l'émission, il m'a dit « Je crois que j'ai la pire que j'ai jamais racontée. »
Ah bon ? Avec pour qu'il dise ça ?
Il faudra la mettre au plus éloigné du repas.
Ah,
tu vois, maintenant,
aïe, aïe, aïe.
Ignoble, hein, je vous préviens. Hein,
allez-y.
À vomir. Et ben, c'est le mec qui...
Remarquez, on est en plein goûter. Est-ce que lors du goûter, ça va ou pas ?
Ben, ça va jamais, cette blague, normalement, si tu veux. Donc, je te la fais quand même. Donc, le gars, il fait pipi dans les toilettes d'un bistrot. Et au moment où il tire la chasse d'eau, il éternue. En même temps, il tout son dentier part dans les toilettes. Et il va voir le patron. Le patron, il dit, monsieur, là, je peux rien faire. Je peux juste vous donner les clés de la cave. Il y a la fosse sceptique en dessous. Bon courage.
Oh, mon Dieu.
Il y va.
C'est bien parti. Hein.
C'est bien parti. Il ouvre la trappe. Je vous laisse deviner l'odeur. Il fouille avec les deux bras là-dedans. Il remonte une demi-heure plus tard. Et le patron dit alors, vous l'avez retrouvé ? Il dit non, non, non. Puis le patron, il remarque qu'il a un petit peu de merde au coin de la bouche. Il lui dit, mais
pourquoi vous avez de la merde au coin de la bouche? Il dit non, c'est parce qu'au début j'en avais trouvé un, mais il n'était pas à moi.
On peut tomber.
Voilà. Oh, bon appétit, bon goûter.
Vous avez raconté pire, hein. Moi, je la trouve légère, celle-là. Oh, bon.
Ouais, un peu dégueu, quand même.
Oh, bon. Si, quand même, franchement.
Quand on aime la merde, évidemment.
Elle est très light.
Qu'est-ce qu'il y a?
Elle est très light.
Ah, voyez, vous aussi, vous trouvez.
Ouais, je suis d'accord, elle est très light.
Ben, j'en ai une pour toi. Tu sais comment on fait pour congeler une morue?
Je ne suis pas portugaise, hein, mais bon, allez-y.
Tu tires sur la couette.
Il nous appelle des morues, ma
non,
chérie.
Non, toi, oui, pas moi.
Moi, les femmes.
Vous êtes magnifique, je dois dire aujourd'hui, Christina. Oui, avec tous ces papillons que vous avez sur votre corsage, je dois dire, vous êtes magnifique.
Voilà, je suis très printemps.
Vous êtes prêts pour une première citation?
Yes.
Elle sera très facile, celle-ci, pour Morgane Malifarge, qui habite Sainte-Colombe, qui a dit « Dieu et Dieu font trois ».
Ah. Jean-Paul II.
Jean-Paul II, non.
Pierre Dac.
Pierre Dac, non.
C'est vivant?
Vivant, non.
Coluche.
Coluche, non.
Un Français?
Mais ça lui ressemble bien. Hein. Dieu et Dieu font trois.
Attends, il est vivant, pardon, je ne suis pas prêt.
Non, il est mort.
Sacha Guitry.
Sacha Guitry, non.
C'était quelqu'un, un humoriste?
Oui, c'est un humoriste, monsieur Stevie, oui.
Pierre Dac?
Pierre Dac, on vient de le dire.
Ah, mais je suis un peu sourd, moi.
Ouais, faites attention, chérie.
Légaré.
Francis Blanche.
Légaré.
Pierre Légaré,
mais non, proches.
C'est pas du Pierre Légaré, ça.
Des proches.
Des proches, non. Dieu et Dieu font trois.
C'est pas Francis Blanche.
Non, c'est... Bah écoutez, puisque je vous le dis...
Ah non, mais c'est
non, mais je te redemanderai quand même tout à l'heure.
Si, 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 De Vos, Raymond De Vos.
Raymond De Vos, bonne réponse de Karine Le Marchand, qui est la plus maligne.
Vous voyez le niveau d'aujourd'hui, quoi.
Une autre question, citation pour Eve Boleg, qui habite Bayonne, qui a dit « Être original, c'est tout faire pour être comme les autres et ne pas y parvenir. »
Ah, c'est bien. Mmh. C'est vivant?
C'est mort.
Français?
Français. Né à Limoges en 1841.
Ah
pour
oui.
Le pauvre. 1841?
Ah oui. Ah oui, il est mort, autant vous dire.
Ah oui, il est très très mort.
Hein. Un auteur de théâtre?
Auteur de théâtre, non.
De roman?
De roman non plus.
Non. De chansons?
De chansons, non.
Un peu chansonnier, en tout cas.
Chansonnier, pas du tout.
Politique. Il a écrit des politiques.
Oui. Politique, non.
Mais qu'est-ce qu'il a fait?
Il est monté sur scène, quand même.
Il n'est jamais monté sur scène.
Ouh là là.
Et il a sorti une connerie il y a 50 ans qui nous intéresse encore.
Eh oui, oui, oui. Ah bah parce que c'est assez joli.
Il aurait dû monter sur scène, il aurait fait une carrière.
C'était un homme.
C'était un homme, oui.
Un homme qui était dans la mode.
Un penseur, comment s'appelle?
Un philosophe.
Un philosophe, non. Qui a dit Rodin?
Moi.
Oui, ce n'est pas Rodin.
Mais c'est un artiste comme
ah,
ça.
Ah oui, mais
c'est un sculpteur.
Ce n'est pas un sculpteur.
Un peintre.
Un peintre. Être original, c'est tout faire pour être comme les autres et ne pas y parvenir.
Renoir.
Et c'est Auguste Renoir. Deuxième bonne réponse de Karine Le Marchand. Mais vous connaissez tous entre vous les Renoirs, alors? Vous n'avez pas une autre, monsieur Bigard?
Si, si, oui. C'est un touriste qui va... Non, non, là, celle-là, c'est un touriste qui va en Israël et veut faire le tour en bateau du lac Tibériade. Il dit, il demande, c'est combien? Il dit, c'est 500 shekels. Et l'autre, il dit, dis donc, 500 shekels, c'est cher. Bah, il dit, attendez, c'est quand même ce lac que Jésus a traversé à pied. Il me dit, bah, ça m'étonne pas avec les tarifs que vous faites.
Vous allez très bien.
Oh, elle est mignonne.
Je vais vous demander tout simplement sous quel nom on connaît mieux Carlo Maria Michele Angelo Broschi, qui est décédé en 1782 à Bologne.
C'est un peintre?
Non.
Un artiste?
Un compositeur?
Un compositeur, non. Un artiste, oui.
Un sculpteur?
Un sculpteur, non. Carlo Maria Michele Angelo Broschi.
Il avait juste un surnom.
Ah oui, un surnom que tout le monde connaît.
Il écrivait de la poésie.
Arlequin, non.
Il écrivait du théâtre?
Il n'écrivait pas de théâtre.
Italien, donc.
C'est un personnage de théâtre.
Italien, oui, puisqu'il était né dans la province de Bari et qu'il est mort à Bologne.
Non, Bari, c'est une ville française.
Ah, la bossue.
Pardon.
C'est celui qui a la bosse.
Quasimodo.
Sganarelle.
T'es dans la Commedia
dell'arte. Non, il n'était pas bossu du tout.
Pantalone?
Pantalone, non.
Est-ce que c'est lié à la Commedia dell'arte?
Du tout.
Ah. C'était un cuisinier?
Il était acteur?
Il était acteur, non.
Il était chanteur?
Chanteur, oui.
Ah, Caruso?
Caruso, non. Non.
Pavarotti.
Pavarotti en 1782, ouais. Claude.
Il est plus vieux que toi. Belcanto?
Belcanto, non.
Umberto Tozzi?
Non.
Eros Ramazzotti?
Alors, est-ce qu'on le connaît
Sous quel nom connaît-on mieux Carlo Maria Michello Angelo Broschi?
Est-ce qu'il a donné son nom à un style ou quelque chose?
Non, je vous jure que vous le connaissez tous.
En tant que chanteur, on le connaît.
En tant que chanteur.
Kenji? On n'a jamais entendu sa voix.
Quoi vous avez dit?
Kenji.
Oh, Kenji. On n'a jamais entendu sa voix en 1700.
Ariel Dombasle.
Non, 1782, attendez.
Mais comment on peut encore se rappeler d'un chanteur?
Mais parce que vous le connaissez tous, c'est comme ça.
C'est en un seul mot, comme Caruso, j'imagine.
Exact.
Et ça finit par un I.
Exact.
J'achète un E.
Il est mort vieux en plus, hein. Il est mort à 77 ans.
Farinelli.
Farinelli. Ah oui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Le fameux.
Il castrato.
Le célèbre castra Farinelli, Ariel,
Broschi.
Enfin.
Oui, mais oui.
Quand il n'y a pas de couilles, ça l'intéresse pas.
Elle pensait que c'était Broschi Beat.
C'est quand même fou, parce qu'à l'époque, quand même, il subissait réellement une castration, hein, c'est
oui,
ça
oui. Ça fait pas si mal.
Ah, je voulais que vous m'expliquiez. Quand on castre, on coupe les boules ou on...
Oui, mais on laisse le sapin.
Non, sérieux, comment on
Mais en quoi ça t'intéresse à ton âge?
Non, je crois...
Je ne veux pas mourir idiot.
Non, mais je crois qu'on coupe les canaux, mais qu'on laisse les coucougnettes.
Oui, on en décoration.
Les castrats n'étaient pas tous châtrés, comme on dit. Parce qu'on peut avoir une voix de haute contre, c'est-à-dire... la voix d'un enfant, d'un adolescent.
Quand tu jouis, t'as une voix de contre-rue.
On parle pas comme ça, Ariel Dombasle. Ah, Claude, dites-lui à Laurent Baffy qu'on parle.
J'ai pas très bien compris. J'ai compris que c'était cochon. Mais j'ai pas bien. Et je regrette de ne pas avoir bien.
Mais Ariel, ça veut dire que ça donne une voix de femme quand un castrat, c'est quoi?
Voilà, non. C'est
ça bloque la mue.
Le haut de contre à la paire, mais souvent ce qu'on appelait, les castrats.
On leur coupait.
Non. Ah non. Il y en a beaucoup qui étaient des hauts de contre.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire qu'on reste avec cette voix d'enfant extrêmement... voilà. Et maintenant, il y a encore beaucoup de hauts de contre, comme vous savez.
Qui ne sont pas castrés. Non.
Voilà. Et la voix est la même.
Ah, comment c'est un castrat, alors?
Oui, c'est à peu près ça.
Et pourtant, j'en ai, hein.
Elles sont peut-être amovibles.
Vous en avez déjà rencontré des castrats, vous?
Oh, bien sûr, j'ai même chanté une cantate, la cantate 78 de Bach, avec un haut de contre. Viro, iren mich fahren, doren segen schitten, oh Jesu. Et lui faisait la même voix.
C'est gênant pour une jeune fille, comme disait ma grand-mère. C'est gênant pour un monsieur d'avoir cette voix-là.
Eh bien, justement, figurez-vous qu'on lui a fait tellement la guerre parce qu'il était tellement beau, alors il y avait toujours les blagues. Oh, mais est-ce qu'il l'est ou est-ce
Ariel,
qu'il l'est
toi,
pas
quand tu chantes, moi, ça me casse les couilles.
et donc, ce merveilleux garçon, qui s'appelle Loiseleur des Longchamps, Octavien Loiseleur des Longchamps,
a décidé
de ne plus être haut de compte tellement c'était d'une étrangeté merveilleuse. Non, il est devenu baryton.
Mais quand il parlait normalement.
Mais oui, ouais. c'est, je vous dis, c'est une technique vocale et c'est aussi des capacités vocales.
Tandis que Farinelli, il n'avait plus rien du tout.
Je peux vous dire que Farinelli, c'est à 10 ans qu'il a été castré.
Elles n'ont pas eu le temps de descendre, elles étaient enlevées. Elles étaient toutes petites.
Il est emmené à Naples vers 1714-1715, alors qu'il est né en 1705. Donc vous voyez, il a 9-10 ans. Et c'est vraisemblablement là, à Naples, qu'il subit la castration.
Oh. Après, il a chanté du Abba.
Et ensuite, il est admis au prestigieux conservatoire.
Il a eu une bourse.
Et c'est à quelle époque qu'il a chanté Vanina, alors?
Dev n'est pas castrat, enfin.
Il est encastrable.
Pour Angélique Rébière, maintenant, elle habite Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret. Je vais vous citer Voltaire.
Je connais bien.
Notez bien, hein, parce que...
J'aime bien le...
Ce qu'il va falloir trouver, c'est de qui Voltaire parle-t-il quand il dit « On raconte qu'à l'âge de 18 ans, il savait 22 langues. Cela n'est certainement pas dans le cours ordinaire de la nature. Il n'y a point de langue qui ne demande environ une année pour bien la savoir. » Quiconque, dans une si grande jeunesse, en sait 22, peut donc être soupçonné de les savoir bien mal, ou plutôt il en sait les éléments, ce qui veut dire ne rien savoir.
Pierre Bénichou.
Non.
Rousseau.
Rousseau, non.
Quelqu'un qu'il n'aime pas.
Ah bah oui, ça oui, vous l'avez compris.
Un autre auteur.
Un autre auteur ?
Alors, un autre auteur, non.
Un chanteur ?
Un auteur ?
Non.
Un politicien ?
Un politicien, pas vraiment.
De David Guetta ?
Un religieux.
C'est Voltaire.
Comment, ah oui,
comment vous voulez qu'il parle de David Guetta, Chantal ? Réfléchissez un peu.
Chateaubriand ?
C'est pas Zadig et Voltaire.
Ça doit être un prince de l'Église.
Oui, alors, j'ai dit un religieux, moi.
Un religieux, non. Ah. Un Français mort en Italie, d'ailleurs.
Ah,
plus jeune que Voltaire à l'époque.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est-à-dire qu'il parle de quelqu'un qui est plus jeune que lui.
T'as qu'à rebondir sur mes questions, si tu veux.
Oui, Voltaire parle de quelqu'un de plus jeune que lui, mais Voltaire était plus vieux que lui, oui.
Oui, c'est ouais, ça, ouais, ouais. Forcément.
Et ça nous donc a bien avancé.
Il faut dire que la personne dont on parle est décédée très tôt, à l'âge de 31 ans.
Ah, d'une chaude pisse.
Un poète ?
Non.
La syphilis, peut-être.
C'était un poète ?
Un poète, non.
C'est un précepteur ?
Précepteur, non. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est manifestement...
La ramenait, c'est quelqu'un qui se la pétait.
Voilà.
Oui, c'est quelqu'un qui était prétentieux.
Voilà.
Mais on sait qu'il était prétentieux à notre époque.
Et Voltaire dit de lui, vous voyez, on croit qu'il sait des choses, mais en fait, il en sait pas tant
que ça. En fait, c'est un trou du cul. Il a dit autrement.
Voilà.
Il a dit
la
autrement.
Boétie.
La Boétie, non.
C'était un écrivain dont il parlait.
Non, plutôt, on va dire, une sorte de...
Un moulin.
De philosophe.
Une poule.
Non.
Parce que le poule philosophe.
Quelqu'un qui a participé à l'encyclopédie, non.
Pardon ?
Qui est un encyclopédiste ?
Un encyclopédiste, non.
C'est, non, mais est-ce qu'il est connu, cette personne est très connue pour d'autres choses que d'être prétentieux et de faire passer les autres pour des ignorants ?
Alors attention, hein, il était d'origine italienne, mais...
Il a un nom italien ?
Pas vraiment.
Ça dépend si on le...
Oui.
Nous, on le connaît sous son nom français, vous voyez, mais effectivement...
Ah, il a été traduit, donc ?
Oui.
Comme si, par exemple, c'était Monsieur Spaghetti, on dit Monsieur Pat.
Voilà.
Ah, Garcimore.
Ça va pas être facile.
Garcimore.
Il était espagnol.
Mais il est mort à quelle année, ces messieurs ?
Ah, il est mort en 1494.
Ah oui.
Ah, c'est pas un
Léonard de Vinci.
C'est-à-dire bien avant Voltaire, vous voyez. Quand même.
Ah, pourquoi est-ce que Voltaire lui en voulait comme
Parce que c'était devenu une sorte de référence.
Je veux dire, quand vous dites qu'il est mort avant Voltaire, il est mort... Okay. Très avant Voltaire.
Ben oui, c'est ce que je viens de vous dire.
Non, mais très, très avant.
Oui, mais sa réputation faisait qu'à un moment donné, Voltaire a tenu à dire que ce type ne savait rien.
Pic de la Mirandole.
Le Pic de la Mirandole. Bonne réponse de Pierre Bénichoux.
C'est joli. Que c'est joli venu de nulle part. Bravo. Du fin fond
de... Il se réveille et boum, hein.
Non, mais en plus, ce qui est fou, c'est que...
Oui.
On peut apprendre plusieurs langues en même temps. C'est stupide ce qu'a dit Voltaire.
Ouais.
Qui c'est un an par langue. Les enfants apprennent 3 ou 4 langues.
Toi, t'as pas encore appris le français.
En tout cas, c'était bien Jean Pic de la Mirandole. Bravo, Pierre. Une chanson pour Myriam Séguin.
Une question, pardon. La chanson, c'était pour Francis Cabrel.
Une question pour Myriam Séguin, qui habite en Barès et la Grave, en Gironde.
Ah, c'est bon, il y a du bon vin là-bas.
C'est Harold de Coninck qui, en 1914, a amélioré l'escurette. Mais qu'est-ce que l'escurette ?
C'est un objet ?
Oui, c'est un objet.
De guerre.
Un objet de guerre, non.
Est-ce qu'on en a à la maison des escurettes ?
Oui, vous en avez à la maison.
Il l'a électrifié.
Alors, on appelait ça escurette au Moyen-Âge, et puis c'est vrai que ça s'est électrifié, vous dites ?
Oui.
Non, il n'a pas électrifié l'escurette.
Il a mis des piles.
On a ça dans notre cuisine.
Pardon.
On a ça dans notre cuisine.
Alors, c'est plutôt pas dans la cuisine.
Dans la salle de bain.
C'est pour la guerre, pour la guerre.
Pour la guerre, non. Dans la salle de bain, oui.
Une brosse à dents.
Une brosse à dents, non.
C'est les cotons-tiges.
Les cotons-tiges. Bonne réponse de Christine Bravo. Et... Stevie Boulet, une escurette, c'est un coton-tige. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?
Ah, mais il n'était pas loin avec l'électrifié, parce qu'il y a, 2 watts.
Bravo. Oh là là !
C'est magnifique.
Oh là, magnifique.
Bravo.
Moi, je dis Madame Mergot.
Ah, oui. Elle fume. Une grande dame de l'humour.
Comme elle est satisfaite.
Mais n'empêche.
Mais la jalouse, mais...
C'est interdit, la vente des cotons-tiges, je crois.
Oui, mais c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, parce qu'après, il y a des petits dépôts de coton dans les oreilles.
Ça te pousse
la
cire.
Moi, j'ai même un coton-tige qui est là depuis 10 ans.
Ah, c'est pour ça que tu parles fort.
Complètement ravagé.
Mais l'autre fois, mon mec... Faut l'enlever. Moi, je me truque les oreilles et puis ça ressort avec le bâton. Et mon mec me dit, où est le coton ? Je sais pas.
Et maintenant, ça fait 3 mois qu'il me dit « T'as retrouvé le coton ?» Ah, il va t'as qu'à le chercher.
Pourquoi il vous lèche les oreilles votre...
Mais il te regarde te faire...
il me regarde faire tout. Par exemple, l'autre fois, j'ouvre une bouteille de cidre. Et là, j'arrive pas.
En vrai, ça doit être du calvados. Oui,
parce que ça me semble pas très alcoolisé quand même.
Non, parce qu'il y a un bouchon.
Non, oui, tu veux partir.
Il y a un bouchon, j'arrive pas à le faire partir, donc je le mets dans ma bouche pour le faire partir.
Elle avait très soif.
Oh la grognasse. Oh,
il a dû me l'enlever avec un tire-bouchon.
De la gorge.
Dans les amygdales.
Mon Dieu. Oh, t'es prête à tout.
Oh la goulue.
Ça, elle est agide.
Il me soufflait dans le nez.
Ah ben il y a de la place.
Tu devrais vivre avec un mec du SAMU, ce serait plus rapide.
Ah oui.
Ben, c'est pour ça que. Voilà, à la recherche du coton-tige.
Il a son brevet de secouriste.
J'ai pas retrouvé. Mais enfin, il y a plein de trucs que j'ai pas retrouvé dans
ton thermomètre.
En plein.
Ton thermomètre frontal.
Ah oui.
Il y a plein de trucs.
L'escurette, une escurette au Moyen-Âge. C'était un coton-tige. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de Coninck, lui, autant vous dire.
Il l'a adouci. Qu'il se curait avec des pics.
Ça me rappelle cette histoire que j'adore du type qui est dans le métro et qui a une banane dans l'oreille. Vous la connaissez, celle-là? Il a une banane dans l'oreille. Alors, il y a quelqu'un qui lui dit « Monsieur, pardon, mais vous avez une banane dans l'oreille. » Quoi ? « Monsieur, vous avez une banane dans l'oreille. » « Hein ? Monsieur, pardon, mais c'est bizarre, vous avez une banane dans l'oreille. » « Qu'est-ce que vous dites ? Vous avez une banane dans l'oreille. » Alors, le type dit « Parlez plus fort parce que j'ai une banane dans l'oreille.
» Voilà, celle-là, elle n'est pas interdite au moins. Vous voyez ?
Ah, c'est drôle.
J'en ai une, mais je sais pas, je crois, si tout le monde la connaît, après...
Non, on vous arrête si on la connaît.
Bon, alors, c'est pendant la guerre d'Espagne, il y a un général qui va visiter... vous connaissez ?
Non.
Non, mais...
tu vas dire deux mots avant qu'on me connaisse.
Qui va visiter ses troupes blessées. Puis
ah,
alors...
je connais, oui.
C'est vrai ?
Non, mais non.
Ah bon ? Et il va voir. Alors, il s'arrête au premier lit. Il dit : comment vous sentez-vous, soldat ? Mais ça me vient, général. De quoi souffrez-vous ? De l'amidales, général. Bon. Et quel est votre vœu le plus cher ? Servir pour vous, général. Et puis le deuxième lit. Bon. De quoi souffres-tu, soldat ? Je souffre les amidales. Et quel est ton vœu le plus cher ? Servir pour vous, général. Et il fait ça. Il fait tous les lits. Et
ouais,
puis.
Tu peux le raccourcir.
Oh non, faites-en encore un ou deux. Alors... J'aime bien.
Et toi, de quoi souffres-tu, soldat ? Je souffre de les amidales. Et quel est ton vœu quand tu sortiras d'ici ? Servir pour vous, général. Bref, il fait.
Encore puis... un, encore un. Encore juste un seul.
Et toi, de quoi souffres-tu ? Ah, los hemorroides. Ah non, mais j'ai oublié plein de trucs.
C'était la fin, là.
Attendez, on recommence. Alors, de quoi souffres-tu ? Los amidales. Et tu es bien soigné ? C'est comme un bâton et un coton. Et quel est ton vœu le plus cher quand tu sortiras d'ici ? Servir pour vous, général. Et ils ont tous mal aux amygdales. Et tu es bien soigné ? C'est comme un bâton et un coton. Voilà, et quel est ton vœu le plus cher ? Servir pour vous, général. Bah, bien sûr, je l'avais oublié. Toi. Et toi, alors il fait tous les lits, ils ont tous mal aux amygdales. Et toi, de quoi souffres-tu ? Los hémorroïdes, général. Et quel est ton vœu le plus cher ? Non, c'est pas dans ce sens.
Non. mais est-ce que t'es bien soigné ? Allez, répète.
Mais non, c'est d'abord, ils ont tous les hémorroïdes. Attends, je vous raconte, je vous la fais vite. Hein. Ils ont tous les hémorroïdes. Ils sont soignés.
C'est une catastrophe, cette histoire.
On a pas bien compris.
J'en ai entendu des histoires mal racontées, mal racontées.
Ils ont tous les hémorroïdes. Ils sont soignés. Attends, je m'adresse à mon public. Ils sont soignés.
Et en reste ?
Ils sont soignés avec un bâton et un coton et le dernier
venir, là,
et le dernier les alimadais. Oui, mais quand c'est bien fait l'os amidales et là quel est ton vœu le plus cher que l'on charge des cotons. Voilà, c'est tout.
Ah oui, donc
oui, non, mais c'est drôle, c'est drôle.
Oui, il était totalement à l'envers.
Non, n'ayez pas pitié, c'est pas la peine.
C'est vrai que pour le coup ma bananesse elle était très bonne. Une question pour Lauriane Degré qui habite Péol dans le Morbihan. En 1917, oui. Qu'a fait un garçon qui se nommait Franck Galaccio, dont tout le monde connaît encore les conséquences aujourd'hui.
C'est une vraie personne, ça n'est pas un roman ou c'est pas un personnage.
Ah, c'est un vrai, quelqu'un qui a vraiment existé, Franck Galaccio. Il a fait ce jour-là, cette année-là.
Cette année-là.
Ah oui, oui, il a fait quelque chose.
Rock'n'roll.
C'est pas lui qui a inventé le reblochon?
Ah non.
Galaccio.
Ici la rebloche.
Non, je peux vous dire que ça s'est passé dans un bar, n'est-ce pas? Et qu'il a fait ce jour-là quelque chose qu'on connaît tous.
Est-ce que vous
pouvez
appeler...
Il a inventé un apéritif.
Un apéritif.
Est-ce que c'est une attitude qu'il a eue?
Une attitude, non.
Est-ce que vous pouvez épeler son nom de famille, s'il vous plaît?
Alors écoutez, oui, bien sûr.
Ça va t'aider, alors
ça servira à rien.
Si vraiment...
Attendez, s'il donne un nom, on doit avoir le bon nom.
Mais pourquoi Galaccio, le chocolat, et chaud.
Franck Galaccio,
Galaccio.
Deux L, elle veut tout. Alors deux L, mettez deux L.
Galaccio. Est-ce qu'il est italien?
Et un T, mettez un T à la fin. Non, mais bon, ça changera rien.
Oui, mais est-ce qu'il est italien? Le pays peut nous aider.
Mais non.
Alors, italien d'origine, bien
il
sûr.
Il n'aurait pas inventé un jeu sans le 421.
Non, mais attendez. Derrière ces questions idiotes, Caroline Diamant, elle vous fait avancer. Et au moins, elle pose des questions et c'est elle qui a raison.
Eh oui.
Quand elle me demande s'il est italien, vous voyez, par exemple, c'est important parce qu'il n'est pas tout à fait italien. Mais ça a quand même son importance.
Ça s'est passé en France.
Le fait que je dise qu'il ne le soit pas, tout à fait. Il a des origines italiennes.
Il a inventé le spritz.
Non.
Est-ce que le fait qu'il ne le soit pas tout à fait veut dire qu'il était près de la frontière, qu'il a un rapport entre la frontière française et italienne?
Ah non, pas dans cet endroit
pas
géographique
dans
ce...
Alors,
là.
Alors on est d'accord que ça s'est passé en France.
Pas en France.
En Italie, en Allemagne.
En Allemagne, en Italie, non.
On a eu l'idée de mettre des cacahuètes dans des petits bols.
Ah non, ça s'est passé en Espagne. Et il a inventé les tapas. Il a mis sa tartine sur le. Non.
Est-ce que ça s'est passé en Europe?
En Europe, non.
Aux États-Unis.
Il était bourré quand il a inventé ça.
Il y a quand même beaucoup de migrants italiens, vous le savez. Oui.
Alors c'était un enfant. Mais est-ce qu'il a inventé quelque chose?
Alors écoutez, ils avaient lui et la personne concernée, parce qu'il y a une autre personne concernée dans cette affaire-là. Ils avaient autour de 18-20 ans.
C'était à Little Italy. Ça s'est passé à New York.
Ah, alors effectivement, ça c'est non. Alors pas à New York. Ouais. Ça s'est passé à Chicago.
À Chicago.
La pizza.
Est-ce que ça a un rapport
la
avec
pizza.
La pègre?
Oui, ça a un rapport avec la pègre.
Est-ce que c'est... Ok, je l'ai. Voilà. C'est le mec qui a fait la fameuse cicatrice sur la gueule du mafioso très connu qui s'appelle Lucky Luciano ou un truc comme
mais
ça.
Mais où est-ce qu'elle va chercher tout ça?
Ben on se demande.
Bonne réponse de Caroline Diamant.
Alors là.
Eh ouais. Scarface. C'est venu ce surnom grâce, ou à cause peut-être, on devrait dire, à cause de ce garçon de 18 ans qui s'appelait Franck Galaccio, qui a attaqué la joue d'Al Capone au rasoir quand ce dernier avait 18 ans lors d'une rixe. Ah bah ils étaient jeunes, ils n'étaient pas encore...
Oui, mais ils ne savaient pas encore qu'il était Al Capone.
Voilà, on sait.
18 ans.
Eh oui, c'est dans un bar à Chicago. Et Al Capone, là, il est barman et videur dans le bar à ce moment-là.
Les verres.
Non, mais il est videur, il est barman, et l'autre, c'est un client qui a 18 ans, et voilà, ils vont finir par s'engueuler, il y a une dispute, c'est un mafieux local, et il va effectivement le balafrer, entailler au rasoir la joue gauche d'Al Capone.
C'est méchant.
Et les trois cicatrices, il y a trois cicatrices, lui laisse ce surnom du balafré en français, mais Scarface. Évidemment, en américain. Non, vraiment, là, je dois dire, c'est une excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, vraiment, il n'y a rien à dire.
Et alors, qu'est-ce qu'il est devenu, Franck Galaccio?
Oh, bon, je pense qu'il est devenu.
Tué immédiatement. Ouais.
C'était une belle jeunesse, quand même.
Ouais. Ah, moi, j'aurais aimé vivre à cette époque, avec les incorruptibles.
Ah, et puis les costumes, et que le chapeau, et tout.
Et en noir, on aurait été tous en noir.
Ah, ouais.
Et puis, ils avaient, tu sais, les porte-chaussettes. Vous savez, les porte-chaussettes.
Ah, non, allez-y.
Bah, à l'époque, les chaussettes n'avaient pas d'élastique. Donc, on avait des porte-chaussettes, c'est comme des porte-jartelles, mais pour les chaussettes.
Ah, ouais.
Et un homme comme ça, moi, ça me rend dingue. Je trouve que c'est
vrai.
T'as l'impression de faire l'amour.
On va vous présenter Jean Castex. Qu'est-ce qui se passe, Christine?
Mais je sais pas, Christophe Willem s'est renversé tout le canard WC sur lui. Il sent un parfum, mais t'en as mis trop, Christophe.
Mais tu plaisantes ou quoi?
Mais arrête de bouger, je te jure, c'est un truc.
Non.
Mais c'est pas vrai.
Oh si, c'est vrai. C'est vrai.
Mais non, ils sont bons. Tu mens.
Ils sont bons. Voilà.
Ils sont bons. J'ai pas dit qu'ils sentaient mauvais. J'ai dit
t'as dit qu'un RVC, ça fouette. Non,
non, non.
Les chiottes.
Ça compense avec toi.
Oui, elle est pas habituée à sentir bon.
C'est pour ça qu'ils m'ont mis là.
Il a mangé des huiles essentielles, il fait diffuseur.
Mais dis donc, regarde-moi, toi. Tu t'es pas changé les dents?
Oh, carrément.
Mais non.
Bon, je les donne.
Mais on pose souvent cette question.
Donne-les.
T'as fait. Arrête, j'ai des facettes, on dirait Morandini.
Mais tu perds, non. Ça suffit, la comparaison avec Morandini.
Et qu'est-ce que t'as fait aux couilles, fais-moi. Tu t'es pas changé les couilles. Oh, c'est quoi le trou de balle?
Oh non, non, mais non, non.
Et la vie,
toi, t'as fait quelque chose.
T'as sûr que non.
Et elles sont, c'est incroyable, les belles dents que t'as.
Écoute, elle trouve qu'il a les dents blanches, qu'il est propre, elle est surprise. Il est quand même pas dégueulasse d'habitude, Christophe Willem. Ça a toujours été un,
non,
ça a toujours été un très joli, un joli. Ça a
ah
toujours
non,
été un garçon.
Ah non,
c'est ça.
Ça a toujours été.
Ça a eu du mal, hein.
Tu l'as
pas
confondu.
Toujours été beau, non.
Tu l'as confondu avec Zaz.
Eh ben, il est plus un petit beau.
Moi, ouais, il est magnifique maintenant, Christophe.
C'est vrai.
Il est parti de loin.
La preuve, t'as vu le temps qu'il a mis pour venir.
Comment t'as fait une école de danse? C'est pas possible.
Mais non,
une
école de danse.
C'est non,
mais tout le monde
l'avance.
C'est des, mais non, dents. C'est juste des dents propres. Oui, il a toujours eu un beau sourire.
Tu sais, ça se brosse les dents.
Ah oui. Ah bon.
C'est vrai qu'elle, elle est de la même couleur que ses cheveux jaunes.
Non.
Et avec les racines noires, en plus. Oh.
Non, non, je proteste. Non, non, je proteste.
Alors, défends-moi. Non, non. Si t'es un homme, défends-moi.
Et hier, elle a fait du poulet au curry. Non.
Claude Sarraute, elle gueule pas quand tu lui piques ses dents.
Est-ce que tu peux le laisser s'exprimer?
Stéphane Plaza, vous qui êtes un spécialiste du neuf et de l'occasion, vous pourriez nous le dire?
Oh, il est plutôt neuf, il a un nouveau pot, j'ai l'impression.
Bon. Tiens, rentre dans le vestibule.
Vous permettez que je pose une question quand
oui.
même. Ah bah tiens, vous savez que j'ai l'habitude évidemment de bien accueillir les nouvelles grosses têtes, et puisque Stéphane Plaza est là aujourd'hui, autant lui poser une question sur une maison.
Bah oui.
Une maison dont le loyer jusqu'alors, vous allez me dire d'ailleurs si c'est un loyer raisonnable, était de 4 700 €. Hein, c'est quand même assez cher.
Hein.
Loyer mensuel 4 700 €. Où, bah, je vais vous dire, à Branau Ham Inn.
Ah, je sais où c'est.
Et cette maison est jaune, et voilà. Évidemment, cette maison est liée à la date du 20 avril 1889. Pourquoi ?
Hitler.
Quoi, Hitler ?
La maison d'Hitler.
Comment ?
La maison natale d'Hitler.
La maison où est né Adolf Hitler. Bonne réponse de Bernard Mabir.
Ils vont la démolir.
Ah ouais ?
Ils parlent de la démolir.
Le ministre autrichien de l'Intérieur a annoncé qu'il allait faire raser la maison où est né Hitler.
Avec un rasoir Braun.
Oh non.
De chez Eva.
Et pourquoi?
Pardon.
C'est un petit peu con parce que bah oui, la maison où rien. Il est né, on s'en fout un petit peu.
Ouais. Ah mais non, parce que ça attire les néo-nazis,
oui,
vous voyez.
Éviter le culte.
Bah ils iront devant. Hein.
C'est ça.
Peut-être que Stéphane Plaza pourrait nous faire visiter la maison d'Adolf Hitler.
Oui, avant
déjà, gaz à tous les étages.
Oh, mon Dieu.
La cuisine avec un grand four.
C'est Madame Gerline de Pommer qui est évidemment la propriétaire de... Mais on ne peut pas l'interviewer. Elle veut pas répondre parce qu'elle a empoché des chèques pendant très très longtemps. Et puis, il y a des néo-nazis qui venaient en clandé pour visiter la maison de temps en temps. Elle a pris pas mal d'argent, il paraît, sur cette affaire-là. Donc, elle est un peu déçue qu'on lui rase sa maison, Madame Pommer.
Bah, on a le droit de faire ça?
Ah bah, elle va être indemnisée.
Ah, ah non, sinon elle va se mettre en fureur.
Très bien.
C'est une jolie bâtisse. Vous avez vendu déjà des maisons hantées comme ça ou des maisons
et
qui
en
font
L.
peur
en elle beaucoup, en elle beaucoup. Non mais on vend beaucoup, c'est vos très chers sur les cimetières, avec vue sur le cimetière.
Ah oui.
Non, ça vaut pas cher.
Au Père Lachaise, ça vaut très très cher.
Ah oui.
Voisin
ah oui.
très calme.
C'est pas plus cher, mais ça se vend cher sur le Père Lachaise.
C'est vrai.
Voilà, ou sur celui du Trocadéro par exemple.
Ou Montparnasse.
Ou Montparnasse.
Ah bon, je pensais que c'était moins cher quand on avait vu sur le cimetière.
Alors si on habite sur le cimetière, ça vaut moins cher. Sur le cimetière, c'est beaucoup moins cher.
Oui. Il y a moins de mètres carrés aussi.
Il y a moins de mètres carrés. On est beaucoup plus nombreux dedans.
Non mais sérieusement, non mais vous déconnez
mais
là.
Mais je déconne pas toujours. Je sais que je suis con, mais quand même pas à chaque minute.
En fait, c'est seulement sur les cimetières d'exception.
Oui, voilà.
C'est ça. N'importe quel cimetière, ce sera moins cher en fait.
Bien sûr, les autres cimetières, ça vaut pas le coup, hein.
Ah ouais.
Laurent, on a l'impression que ça vous dérange vraiment, ah bah oui, que ça vous dérangerait d'avoir vu sur un cimetière.
Bah oui, j'aimerais pas ça, oui, effectivement.
Ah bah c'est une sorte de repérage.
D'ailleurs, ça m'arrive parfois ici même pendant l'émission, croyez-moi.
Mais non.
J'ai souvent vu sur le cimetière tous les matins. Déjà, rien que là, avec votre décolleté, j'ai vu sur le cimetière.
Ça me dérangerait, mais absolument pas. Mais pourquoi ? Je veux dire, absolument pas, au contraire.
Mais tu vois des gens qui pleurent toute la journée sous tes fenêtres,
mais
quand même.
Mais ils pleurent pas, les gens.
Ils pleurent le premier jour.
Ah bah, ils rigolent, peut-être.
Après, ils reviennent pas, en général.
Mais non.
On n'est pas toute la journée chez soi, tu sais, on travaille, Karine, un peu de temps en temps, nous.
Et t'as des fleurs gratos toute l'année.
Bah oui, n'empêche que c'est fleuri, c'est arboré.
Mais non. Ah ouais.
Et c'est calme.
Et
la nuit,
t'as les messes noires.
Et pour promener le chien, c'est content, il remue la queue tous les 2 mètres. Va chercher le nonos, va.
Et si t'aimes la pêche, il y a des coins asticots, non? C'est très...
Bref, absolument, oui, si vous aviez raison, il faut louer devant un cimetière, Stéphane Plaza. J'ai une question là d'actualité, puisqu'on fête un anniversaire aujourd'hui, il y a 22 ans, jour pour jour, le 15 octobre 1998, on apprenait que tigre voulait dire quoi en sanskrit ?
T'es hyper d'actu. Non, t'es vraiment l'actualité chaude.
Chacun se souvient de où il se trouvait quand il a appris que tigre voulait dire quelque chose en sanskrit.
Ça veut dire ballon ?
Non, ballon, non.
C'est une actualité française ?
Ah oui, une actualité internationale, mais chez nous en France, allez, je vais vous aider, il y a quelque chose qui a été commercialisé pour la première fois le 15 octobre 98.
Un jeu ?
Le McDo ?
Quelque chose qui veut dire tigre en sanskrit.
Un jeu ?
Un jeu, non.
Un objet ? Ça se bouffe ?
Ça se bouffe, non, mais...
Ça suce.
Et attention, cher Laurent Baffy, je vous interdis de dire à une machine à coudre, ça s'ingère.
Ah, un médicament ?
Un médicament, presque.
C'est liquide.
Le Viagra ?
Le Viagra. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Bah, c'est vraiment le
connaisseur.
C'est facile pour lui, Laurent.
Là, c'est connaisseur.
C'est vraiment le
voilà, il y a un connaisseur.
C'était le nom de code à sa pharmacie. Et je voudrais du baume du tigre, si vous voyez ce que je veux dire.
Et bien oui, Viagra, ça veut dire tigre en sanskrit. Viagra, c'est tigre.
Ah, l'accent est remarquable.
Ah ouais, ben, oui. C'est incroyable.
Alors, je parle le sanskrit comme...
Mais chez Bernard, c'était du Viagro. Ça veut dire comment en croate ?
Vous avez déjà essayé ou pas, Bernard ?
Oui, en pommade. J'ai eu la main tendue pendant 3 jours.
Mais Laurent, souvenez-vous, à l'époque, on faisait l'émission. On a tout essayé.
C'était pas pour on a tout essayé. En 98, elle n'existait pas, cette émission. Je vais vous dire, parce qu'effectivement, mais je l'ai déjà raconté. Je peux le re-raconter.
Oh oui, oh oui.
À votre demande, monsieur Gueluc.
Non, mais allez-y.
On dirait Drucker.
Mais c'est vrai qu'en 98, on était à France Inter, encore à cette époque-là. Et l'événement du jeudi, qui était un hebdomadaire célèbre de l'époque, nous avait demandé, je crois que c'était Georges-Marc Benamou qui dirigeait l'hebdomadaire à cette époque-là, nous avait demandé à quelques-uns de l'équipe de France Inter de tester le Viagra.
Donc c'était Georges-Marc Benadur.
Avant qu'il soit commercialisé.
Avant qu'il soit commercialisé.
Oui, pour raconter quel effet ça faisait.
Il ne pouvait pas le faire lui-même.
Et alors, tenez-vous bien, ceux qui avaient testé le Viagra, non, mais je vous jure que c'est vrai.
Faisait bande à part.
C'est là qu'on a appelé ça la bande à Ruquier.
C'était Jean-Pierre Coff, Bruno Mazur et moi. Et là, il y a Thierry Ardisson qui avait dit, mais il paraît que ça marche pour les hétéros aussi.
Et c'est là où vous avez embauché Stevie ?
Et alors, la réalité, c'est qu'on l'a essayé, effectivement.
Ça marche ?
Et Jean-Pierre Coff et Bruno Mazur et moi, et on l'a raconté à l'antenne le lendemain. Donc, j'imagine, voilà, en octobre 98. Alors, moi, le problème, j'ai tout vous raconté, mais à chaque fois que je raconte ça, on ne me croit pas.
Ah, c'est l'année où votre chien est mort.
Quand je raconte... Écoutez, j'avais pas de chien à l'époque, en plus, en 98, et j'avais pas d'amis non plus. Et j'avais pris rendez-vous un coup, quoi. Et il avait, quand on raconte ça, on croit que c'est pas vrai. Mais...
Français mort?
Mais non, mais le garçon en question n'est pas venu.
D'où les ampoules aux mains.
Ça fait vraiment quelque chose.
Mais n'empêche que j'ai quand même pu constater que ça marchait, évidemment.
Ah oui, c'est bon.
Oui, parce qu'il y avait personne et que ça marchait quand même. Vous voyez ce que je
veux
dire?
Vous avez refait le crépit de chez vous?
Non, mais finalement, c'était la meilleure façon de tester le truc. Parce que si quelqu'un était venu, ça aurait marché de toute façon. Le fait qu'il n'y ait personne qui vienne, c'était le meilleur moyen de savoir que ça marchait.
Non, le meilleur moyen, c'était avec Christine Bravo.
Les Yanitos.
Des trapézistes.
Non, non, les Yanitos.
C'est...
Ah oui, ça c'est.
Et bienvenue voir les Yanitos. Ils feront d'incroyables cabrioles pour vous plaire. Les Yanitos, bientôt dans votre ville. Incroyables les Yanitos. Les Yanitos. Ils sont prêts à tout pour vous faire rêver. Vous aurez les yeux qui clignotent et qui pétillent. Avec les Yanitos.
Ça va, les petits éléphants. Oh, vous voulez voir mes couilles?
Oh, le clou... non, ça c'est Starani. Oh, le clown dégueulasse, il est là.
Et voici Yanita. Qui sort du gâteau.
Les Yanitos ne sont pas des clowns et sont pas des gens de cirque.
C'est une tribu?
Il y a une page qui leur est consacrée.
Ah, est-ce que ce sont des gâteaux?
Une tribu, non.
Ah, à la fin, attention, biscuit, comme j'aime, à la fin.
Oui, des biscuits comme les palmitos.
Mais non, mais attendez, ça sonne bien. Attention. Mais non, mais ça sonne bien les Yanitos. Appelez ouais, comme tu reprendrais bien Yanitos, non?
Les Yanitos ont le droit à une page entière aujourd'hui dans Libération.
Mais ça se mange
alors,
ou pas?
Je peux quand même savoir si ça commence par un I ou par un Y.
Ça commence par deux L qui se prononcent.
Ah, les Yanitos.
Bah voilà.
C'est des BD.
C'est pas des BD.
Ah bah alors c'est facile si ça commence par deux L. C'est espagnol. C'est espagnol.
Espagnol.
Alors
les Yanitos, c'est une équipe de.
Comment te llamas?
Elle a gardé les restes de Julio Iglesias.
Lui aussi, ouais.
Lui, j'aurais bien aimé.
Bah, c'est toujours possible, il est pas mort.
Mais je trouvais qu'il avait un charme fou.
Oh, les femmes, oh, mon drame, le sourire nous désarme.
Eh ben, il m'en reste cette phrase.
Caroline, adorable. Non, toi non plus, tu ne m'as pas branlé.
C'est pas possible. Est-ce qu'on peut parler d'amour?
Oui, c'est ça.
Et pas de sexe, toujours.
Après ton régime, tu me plais.
Vous salissez tout, quand même.
C'est vrai, il aurait pu chanter comme j'aime, Caroline Rullio, quand même.
C'est vrai, ça a raison.
Vous connaissez l'histoire, je l'ai racontée 18 fois, mais je veux bien la raconter une 19e
fois. Oui,
allez-y, on l'a oublié.
Vous la connaissez pas?
Non.
Ah bah si, c'est les grandes époques de Julio Iglesias, où toutes les femmes étaient folles de Julio Iglesias, et il y a une femme qui passe une petite annonce et qui dit « Rêve d'avoir un enfant qui ressemblerait à Julio Iglesias ». Et alors là, évidemment, elle reçoit des candidatures, elle regarde les photos, et puis il y a des tas de courriers, il y a des types qui ressemblent plus ou moins à Julio Iglesias, mais jamais un qui ressemble vraiment à Julio Iglesias. Mais parmi tous les courriers, il y en a un où il n'y a pas de photo du tout. Et en revanche, la personne dit « Moi, je vous jure que si on fait l'amour ensemble, vous aurez un enfant qui ressemble à Julio Iglesias. » Elle dit « Bon, celui-là quand même, je vais le faire venir, on verra bien. » Le type sonne à sa porte 2 jours plus tard, ils prennent rendez-vous, ils sonnent, elle ouvre, et là, elle voit un type, mais vraiment pas très beau, hein, vraiment, alors, qui ressemble en rien à Julio Iglesias. Elle dit, mais enfin, c'est bizarre ça, quand même, comment vous êtes sûr que vous allez me faire un enfant qui va ressembler à Julio Iglesias? Alors le type, bah, écoutez, c'est pas compliqué, hein. Moi, je l'aime pas, Julio Iglesias, mais ma femme, elle est comme vous. Elle adore Julio Iglesias. Alors, par exemple, je vais vous dire, à la maison, quand on est dans l'entrée, il y a un poster de Julio Iglesias. Ah oui, ah bon. Aux toilettes, il y a un poster de Julio Iglesias. Dans la chambre à coucher, devant le lit, il y a un poster de Julio Iglesias. À la télévision, on regarde que des vidéos, des spectacles de Julio Iglesias. Quand elle allume la radio, c'est pour écouter du Julio Iglesias. Les disques, c'est... Alors, du Julio Iglesias, j'en ai plein les couilles. Ça ne nous dit pas ce que sont les Yanitos.
Los Yanitos.
Mais c'est un nom commun ou c'est un nom propre?
Ah non, c'est un nom commun.
Ça désigne des êtres humains.
Ah oui, oui, ça oui.
Et donc...
Moi, je peux même vous dire combien ils sont, les Yanitos, parce qu'on nous le dit.
Ils sont beaucoup.
Moi, je ne connaissais pas ce terme. Ils sont 33 140.
Ah oui.
Des albinos.
Ça n'aurait pas à voir avec l'Amérique du Sud.
L'Amérique du Sud, non.
Ça se passe sur le territoire espagnol, on est d'accord?
Oui, ça a un rapport avec Ibiza.
Non, ça a un rapport avec Gibraltar.
Est-ce que c'est sur une île?
Oui, alors, donc.
C'est les habitants de Gibraltar.
Bonne réponse de François Rollin. Monsieur de Kersauzon est accablé parce que je l'ai vu dans Paris Match avec sa compagne dans le Paris Match. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier?
Ah bon, c'est Paris Match cette semaine?
Ta gueule.
Il est comment dans, qu'est-ce qu'il fait dans Paris Match?
Ah ben, je savais pas que vous mettiez des crocs, Olivier.
Tu mets
ah,
des...
comme Robin Machado.
Non, posé avec des crocs. Ah, mais ça, les mais crocs, c'est...
Ça fait 15 ans que je mets avec des crocs.
Mais c'est moche, les crocs.
Ah, oui, mais oui, ma chérie, mais j'accepte d'être moche. Et il est en merde.
Bah, il paraît qu'il c'est confortable.
C'est vachement bien, les crocs. Attends, tu rigoles. Moi, je vis en milieu tropical les trois quarts du temps ou en pays humide.
Mais oui, quelle est la différence entre la crotte et la...
La crotte. Pas crotte.
Et la tongue. Moi, bah, la crotte, elle est horrible.
Oui, elle est horrible. Elle est tout plastique. Elle n'est pas belle.
Ouais, un voilà. Peu comme un sabot en plastique.
Voilà. C'est très moche. Il y a des ouvertures partout. C'est pas joli.
Le vrai problème dans l'article de Paris Match, c'est qu'il a des crocs ou il y a autre chose? On apprend des trucs?
Ah non, non. Sa femme est évidemment très, très jolie. Olivier a l'air heureux. Ils sont tous les deux en forêt. On les voit au
en
milieu.
En forêt?
Oui, en forêt, au milieu des champignons.
C'est beau.
Je comprends pas comment un rebelle comme toi a pu faire la couverture de Paris Match.
C'est pas la couverture. Ah non, c'est Polanski en couverture, confondez pas. Il y a Polanski et Olivier en croc.
Ah oui, d'accord. C'est pas par image, en fait.
Attends. Peut-être je peux placer une première citation et ce sera pour Marc Bourion qui habite les Clés-sous-Bois dans les Yvelines, qui a dit « Le pire con, c'est le vieux con ». On ne peut rien contre l'expérience.
Coluche, ça peut être Kersauzon. Ouais.
Ce n'est pas Olivier de Kersauzon.
C'est quelqu'un qui est vivant?
Ah non, il est mort, il est dans les années 80.
Aux grosses têtes, il a déjà fait
non,
les grosses têtes?
Non, il ne faisait pas les grosses têtes. Il était sur une autre radio à l'époque.
Ah. Des proches?
Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon.
Bravo.
Une autre citation, et ce sera pour Elisabeth Archambault, qui habite Noirétable, c'est dans la Loire, qui a dit « Il faut avoir le courage de reconnaître que le nazisme a commis des erreurs. Envahir la Pologne au lieu de la Suisse, c'est comme habiter en face de la Banque Centrale et braquer le kebab. »
Bon, ça c'est français, forcément.
C'est français.
C'est récent.
C'est très récent.
C'est très récent, c'est ça. Alors.
Patrick Timsit, est-ce que c'est un humoriste?
Un humoriste.
C'est pas Patrick Timsit.
Un humoriste que j'aime
c'est
beaucoup.
C'est Gaspard Proust.
Et c'est Gaspard Proust. Bonne réponse. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Tiens, une citation d'actualité, puisque demain nous serons vendredi 13, je vous le rappelle.
Oui. Grosse cagnotte. Ah, vendredi 13, il y a toujours des grosses cagnottes.
C'est vous qui faites...
Non, ça n'est pas moi, vendredi, mais grosse cagnotte.
Mais vous faites combien de fois par mois, alors, le tirage?
Moi, je fais 4 à 5 jours par mois.
Le tirage du loto.
Exactement.
Est-ce que tu as le droit de jouer?
Bien sûr.
Normalement, on n'a pas le droit.
J'ai le droit de jouer, mais je n'ai pas le droit de toucher les boules.
T'as pas le droit de gagner.
Ah, quel dommage. Il y a une interdiction. c'est la raison pour laquelle Jean-Phil ne fera jamais le tirage.
Jamais parce que
c'est loto, trop tentant.
Ben alors demain, vendredi 13, il va y avoir évidemment beaucoup de joueurs.
Généralement, oui, il y a beaucoup, il y a plus de joueurs. Oui.
Alors, qui a dit, il est exact que ça porte malheur de se marier un vendredi 13 parce qu'il n'y a pas de raison que ce jour-là fasse exception.
Français.
C'est quelqu'un qui s'est beaucoup marié.
Un Français qui s'est beaucoup marié, je l'ignore.
Eddie Barclay.
Mais il était effectivement un peu humide. Non, c'est pas Eddie Barclay.
Il est connu
il est mort
pour
être... quelle année?
Oh, il est mort en 1929.
Connu pour être misogyne?
Oui. À l'époque, les dramaturges étaient souvent misogynes.
Ouais. C'est Courteline, non?
Courteline, excellente réponse de Marcela Yacoub. Pouvez-vous me dire quel hôtel se trouve au 220 rue de Provence à Paris?
Oui, le One Toto.
Le One Toto.
Le One Toto, non.
Non. C'est l'hôtel Drouot?
L'hôtel Drouot, non. 220 rue de Provence à Paris.
Paris 10e,
si vous voulez.
Non, la Haute-Provence, elle est pas loin des Galeries Saint-Lazare.
C'est derrière les Galeries Lafayette, là.
Oui. Dans ce
un hôtel, mais vous posez la question parce qu'il a quelque chose de singulier, cet hôtel.
Bien sûr, cher Ariel, autrement je ne vous en parlerai pas.
Est-ce un artiste y vivait?
Est-ce que c'est un vrai hôtel ou un autre? Par exemple, ça pourrait être un hôtel de change ou un hôtel...
C'est un hôtel particulier?
Alors, c'est à la fois compliqué de vous répondre, c'est à la fois un vrai hôtel, oui et non.
Par exemple, c'est l'hôtel d'une église?
D'une église, non.
Ah
non,
c'est bien un hôtel
avec des chambres.
Avec des chambres, mais
qu'on peut louer, oui.
C'est un hôtel de passe?
Un hôtel de passe, non.
C'est un hôtel qui a une particularité.
Ah ça oui, Chantal, c'est tout l'objet de la question.
Est-ce qu'il a été le siège?
Et d'ailleurs, Chantal, si quelqu'un parmi nous devait pouvoir répondre à cette question...
Chirurgie esthétique.
Non, faut pas...
Merci Christine, oui.
Non, pas du tout, mais Chantal, normalement,
ah bon,
devrait connaître cette adresse, 220 rue de...
C'était un asile psychiatrique.
Non.
C'était un hôtel de vieux.
Un hôtel de ville, non. 220 rue de Provence, à Paris.
Pour personnes âgées.
âgées.
Personnes âgées,
un
non.
Il s'est passé
quelque chose d'historique ?
Quelque chose d'historique, non.
C'est son emplacement qui est spécial ?
Oh, son emplacement, de toute façon, est spécial, oui. Son
il décor. A été bâti sur quelque chose qui existait avant ?
Du tout.
Est-ce qu'il y a un fait historique
non.
Il n'a pas politique. D'ascenseur.
Oh, ça, je pense que, effectivement, je ne suis pas certain qu'il y ait d'ascenseur.
Il
n'y
a, qu'une y a chambre. Pas de bidet dans les chambres.
Alors, ça, oui, je crois qu'il y a des bidets dans les chambres.
Il n'a qu'une chambre.
Non, il y a plusieurs chambres.
Il est tout petit.
Ah non, non, il est normal.
Il n'y a pas de clé sur les serrures.
Ah non plus.
C'est un hôtel dédié à des gens en particulier.
Oh non, pas spécialement.
Les chambres, les portes des chambres sont coupées en biais de manière à ce qu'on voit ce qui se passe derrière.
Où est-ce que vous avez vu ça, Bernard ?
Bah, c'est connu, hein.
Ah bon ? Racontez-moi.
Bah ouais. Bah, quand vous alliez, quand vous alliez avec une dame de petite vertu.
Oh, le gros voyeur.
Il y avait des portes biseautées, ce qui fait que les gens pouvaient regarder.
Ah, c'est pas vrai.
Et il y avait le
mi-temps.
Chantal va falloir viser juste.
Elle y a des glaces au plafond.
Non, du tout. Je vous demande d'ailleurs le nom de l'hôtel. Hein. C'est pas plus compliqué que ça.
Hôtel de Provence.
Ah oui, si vous me trouvez le nom de l'hôtel.
Il est connu le nom ?
Ah oui, vous avez gagné, je vous le dis.
Hôtel
vous
de
êtes descendu, vous, Laurent, dans cet hôtel ?
Jamais.
Hôtel Pourquoi Mogador ?
Hôtel Mogador, non.
Pourquoi vous n'y
hôtel
allez pas ?
Hôtel du Nord et du Midi réunis ?
Hôtel du Nord, non.
Pourquoi je pourrais y aller ?
Parce que vous êtes une de celles qui pourraient effectivement y aller,
ah,
oui.
C'est des hôtels
hôtel de la vieille poule.
Ça n'a que des gens
qui ont...
C'est
un hôtel pour comédiens ?
Un hôtel... Ah, on ne peut pas mieux dire, chère Christine.
Pour vieux comédiens, une maison de retraite pour vieux comédiens.
Mais non, elle nous l'a déjà dit.
On y joue des pièces dans les chambres, des
pas
petites pièces.
Pas du tout.
L'hôtel de la comédie.
Non, non plus.
Ça a le nom d'un comédien.
Pardon ?
Ça a le nom d'un comédien connu.
L'hôtel a le nom d'un comédien connu. Non.
D'une comédienne.
Non plus.
Ah, je sais, l'hôtel Ibis.
Mais d'où tu connais ça, toi ?
Je peux comprendre que ça vous soit étranger, l'hôtel Ibis.
Oui.
Cher Ariel. Mais enfin, c'est pas à ce point étonnant, un hôtel Ibis, vous voyez ?
Et tu penses que je descends que dans les Ibis, alors ?
Jamais été dans un Ibis.
C'est un rapport avec les comédiens, vous avez dit.
Ah oui, ça pourrait avoir un rapport avec les comédiens, c'est un rapport avec...
L'hôtel Molière.
Hôtel Molière. Non, il vous reste à peine 20 secondes. Il vous reste 20
Corneille.
Secondes. Ah, si vous me donnez le nom de cet hôtel.
Richelieu.
L'hôtel Richelieu.
Du libre-échange.
Pardon ?
Du libre-échange.
L'hôtel du libre-échange. Bonne réponse de Laurent Baffy. Oh là 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 là.
Mais c'est libertin.
Bravo.
Ah bah heureusement qu'il est là.
Florence Leclerc a vu le chèque RTL lui passer sous le nez à 5 secondes près.
Ah, oui. Il faut lui offrir des places pour aller voir la pièce à la Comédie Française.
Exactement.
Qui est remarquablement interprétée.
Mais alors pourquoi, Christine, n'avez-vous pas pensé à cet hôtel du libre-échange qui n'existe pas, évidemment, l'hôtel du libre-échange.
Parce que contrairement à Laurent Baffy, je ne fréquente pas ce genre de lieu.
Mais il n'existe... Je t'y emmènerai, Christine.
C'est incroyable, ça.
Il n'existe pas, l'hôtel du libre-échange. Évidemment, il n'existe que dans l'imagination de Georges Feydeau. Fedo.
Et ah, c'est...
Oui, je l'ai joué.
Et... Ah, non, c'est pas vrai.
Ah bon ?
Mais t'es pas arrivé jusqu'à l'hôtel.
J'ai joué l'hôtel du libre-échange à la Michaudière, je faisais Madame Pinglet.
Et ben voilà, exactement, les Pinglet, les Paillardins qui les se retrouvent dans cet hôtel du libre-échange, et il y a l'adresse dans la pièce, hein, Chantal.
C'est vrai,
si vous aviez un peu de mémoire, il y a l'adresse 220 rue de Provence à Paris. Hôtel du libre-échange qui offre sécurité et discrétion aux gens mariés, ensemble ou séparément. C'est écrit par Fedeau lui-même dans la pièce. Et d'ailleurs, si vous allez rue de Provence, vous ne trouverez pas de 220 rue de Provence parce que le numéro n'existe pas. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi toutes les questions que vous me posiez étaient parfois difficiles pour moi d'y répondre parce que, évidemment, c'était à la fois une adresse qui existait, oui, et non. Et en même temps, l'hôtel existe bien puisque tout le monde connaît l'hôtel du libre-échange.
Oui.
Et s'il y a bien un hôtel pour comédiens, c'est celui-là. Il suffisait qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui soit actrice, qui, et ça aurait été un miracle, ait joué dans cette pièce de Fedeau. Et ça reste en tout cas, à nouveau, une excellente réponse de Laurent Baffy. Oh, une question très facile pour Gérard Desroches qui habite Cergy. Comment appelle-t-on une sirène quand elle n'a pas de queue de poisson et vit en eau douce ?
Une nymphe ?
Une nymphe ?
Non, c'est pas ça ?
On est tout près, bravo.
Une nymphe ? Un elfe ?
Une nymphe ? Non, mais effectivement, vous avez raison, c'est une nymphe. Ou une naïade, si vous préférez.
Eh ben.
Mais justement, les sirènes aussi en sont. Les sirènes, c'est en eau de mer.
Ouais.
Et... c'est dans les cons, on est d'accord.
Non, non, il y en a vraiment. Si tu cherches bien.
Les sirènes, c'est dans l'eau de mer.
Mais oui,
c'est magnifique. Des ondines.
Ben oui.
Mais oui, oui, des sirènes. Ondines. Pardon.
Des ondines.
Les ondines, les oui. ondines. Ah, bonne bon. Réponse d'Isabelle Mergaux.
Un film aujourd'hui.
À quoi,
oui. Eh oui, il y a un film aujourd'hui qui s'appelle Ondine, évidemment.
À quelle heure?
Et c'est vrai qu'une ondine, ou un ondin d'ailleurs, hein, ça peut être au masculin aussi, c'est un génie aquatique, féminin ou masculin, qui vit en eau douce, contrairement aux sirènes, qui vivent, elles, en eau de mer.
Comment tu savais ça, Isabelle?
La déduction.
Et c'est vrai qu'il y a un film qui s'appelle Ondine aujourd'hui, il n'y a pas de hasard si ce titre a été choisi, c'est parce que la femme qui porte d'ailleurs le nom d'Ondine dans le film tombe amoureuse d'un scaphandrier suite à un aquarium qui va exploser, je ne sais pas pourquoi.
C'est bien raconté, bien, hein. C'est un bon pitch.
Et pourquoi c'est lié à Isabelle Adjani, Ondine?
Ah, parce une pièce de Giraudoux aussi.
C'est la pièce qui l'a fait connaître.
Vous connaissez bien Isabelle Adjani.
Je l'adore.
Vous êtes un peu notre Adjani à nous.
Ah ouais, t'as raison. Ouais.
Non, mais c'est... Voilà, là, c'est... Version Lidl, quoi.
C'est les yeux bleus, ça. Bon, c'est pas la peine de vous foutre de moi comme ça.
Moi, je suis Sharon Stone.
Non, mais recroise les jambes. Hein.
Recroise les jambes.
Et alors, d'ailleurs, tiens, comment s'appelle le masculin d'une sirène? C'est-à-dire que, là, vous avez bien compris maintenant que en eau douce, c'est les ondins et les ondines.
Il n'y a, a pas de féminin.
Le masculin, si, masculin. C'est un klaxon.
Un avertisseur, oui.
Mais on n'est pas loin, notez bien.
C'est bien.
Mais enfin, vous le savez, évidemment.
Un poisson.
Alors, on a les nymphes, les naïades, qui sont dans les rivières, dans les fontaines, dans les eaux courantes et qui n'ont pas que de poissons, sont les ondines. Leurs masculins sont les ondins, mais qui sont plus rares, les ondins, que les ondines. Hein. Mais leurs sœurs, d'autres génies aquatiques, ce sont des sirènes. Quand c'est un homme...
Un hippocampe?
Non, comment vous avez dit?
J'aime bien le hippocampe.
Tu l'as presque dit. Hein.
Un hippocampe?
Un hippocampe?
Ouais. Voilà.
C'est pas avec ça.
Quoi ça?
C'est pas ça, apparemment.
Un
hein.
Siron.
Ah, c'est le mot français n'existe pas non plus.
Pourquoi vous n'avez jamais rien de juste?
Oui, c'est vrai. Pourquoi c'est toujours approximatif?
Je sais pas comment je dois le prendre.
Il n'y a que les prix qui sont justes de tes apparts. Ça, c'est juste.
Ça fait des boules, hein, quand même.
Je suis sûr qu'il y a des bateaux qui doivent s'appeler comme ça, non?
Mais bien sûr, enfin, quand même, c'est vous qui êtes sur l'eau, Christine.
Est-ce que ça résonne comme sirène? Ou pas du tout?
Pas du tout. Non, non.
Ah, bon,
alors. C'est des hommes avec une queue?
C'est des créatures représentées avec un torse humain et une queue de poisson.
Rocky.
Ah oui, 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 oui. Je le vois. Il a un trident.
Il y a un film à Caman.
Poséidon. Oui, mais il a un trident, le
oui,
sirène.
Oui, il a un trident.
Oui, 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 le sirène.
En fait, c'est une fourchette à nouilles. Le
sirène.
C'est une fourchette à nouilles.
Et il a même la queue en l'air.
Oui, oui, bah, oui. Attends, le matin. Moi, oui, c'est souvent le matin.
C'est qui,
ouais.
C'est qui t'a pas vu, hein.
Vous raconterez pas à vos amis, Christophe Comte, hein, l'ambiance qu'il y a ici. Non, alors, une sirène, donc, en eau de mer, une ondine en eau douce, un ondin quand c'est au masculin, et les créatures masculines qu'on trouve en eau de mer, ce ne sont pas des sirènes, ce sont des...
Ça commence par un S aussi?
Pas du tout.
Non, bah tu vas pas tous les
Ça
faire.
Commence par un P.
Non.
Non, bon, non bah, plus. Bon, je vais acheter une voyelle, moi.
N'étiez pas loin, à un moment donné, quand vous avez parlé de ce qu'ils avaient dans la main.
Un trident.
Pour cette anouille.
Des tridents. Oui, c'est des tridents.
Un triton.
C'est des tritons.
Des tritons. Bonne réponse de Florian Gazan. Des tritons. Non, vous connaissez les tritons quand même, Christine.
Non.
Ouais, ça me revient, mais.
Il n'y en a pas dans la scène.
Il n'y en a pas dans la Seine.
On va empêcher que ça péniche.
Voilà, là, j'aimerais.
Qu'est-ce qu'on peut pêcher alors dans la Seine?
Tout, des silures de 2 mètres. Tout, on peut tout pêcher. On peut faire de la pêche au gros dans la Seine. Nous, on fait du no-kill.
Du quoi?
Du quoi?
Du no-kill.
Ah, vous remettez à l'eau? Quoi,
ouais, on remet à l'eau. On ne les tue pas.
Ah, bah, ils sont contents. Ils ont un hameçon.
Non, on retire.
Ça leur fait un piercing.
Elle ne connaît rien à la pêche. Non, on prend un dégorgeoir.
À la dynamite, hein?
On prend quoi?
Un dégorgeoir.
C'est votre surnom.
Pierre Palmade.
Non, c'est quoi un dégorge-toit?
Eh ben, c'est pour retirer l'hameçon. Retirer l'hameçon.
Oui, mais enfin, il a quand même
non,
il a un trou dans la dent.
Il a un piercing, ça va, c'est bon.
C'est à peine un piercing, tu retires avec le dégorgeoir l'hameçon et tu remets.
Oh oui, mais il a quand même morflé.
Eh ben, en tout cas, il a un mauvais souvenir.
Il a moins morflé que toi, sans
l'hameçon.
Sans l'hameçon.
Parce que tu pêches le plus dans la Seine, c'est des vélibes, hein.
Ah oui.
T'aimes pas pêcher?
Dans la Seine, j'irais pas penser.
Non, lui, il aime pécho.
Il est pécho, mais
si je retirais un poisson de la Seine, je ne le mangerais pas.
Mais c'est pour ça qu'elle
les mange pas. Mais d'ailleurs, on va pas pêcher seulement dans la Seine, on va pêcher dans la Marne aussi.
Waouh, l'aventure.
Ah, oui. Non, pas là. Non, mais je.
Mais donc, Christine, tu vas mourir sur Seine.
Ah, c'est beau.
Ça, c'est joli.
Oui, mais quand?
Qu'est-ce que l'épouse de Freud faisait tous les matins pour lui faire plaisir?
Elle lui taillait une pipe.
Non.
Est-ce que c'est sexuel?
Ce n'est pas sexuel.
Elle faisait le café.
Non plus.
Elle le rasait.
Alors ça, c'est vrai qu'elle faisait le café parce que elle était très attentionnée pour que Freud ait tout le temps
Sigmund
qui lui convenait.
Ein kleiner Kaffee, meine kleine Sigmund, ich liebe dich.
Ja, Martha. Une capsule.
Elle s'appelait Martha. Bravo, Martha. Bravo, oui. Cher.
Elle lui astiquait sur moi.
Non, cher Jean-Jacques Perroni. Et c'est vrai qu'elle tenait bien la maison, elle préparait ses vêtements.
Elle lui passait un petit coup de plumeau.
Elle choisissait.
Pour enlever la poussière.
Non, elle choisissait ses mouchoirs.
Est-ce qu'elle lui préparait quelque chose de particulier à manger?
Ah oui, c'est
le matin.
Non, à manger, non.
Elle lui préparait son bain à température.
Quasi, mais mieux que ça encore.
Elle le prenait lavait. Pour lui, le bain.
Non.
Elle lui brossait les dents.
Non, mais on n'est pas loin.
Elle le lavait.
Elle lui brossait la barbe.
Non. Elle le torchait.
Non, on était tout
la
près.
Moustache.
Ah, on est dans les dents?
Oui.
Elle sortait du verre?
Non.
Elle lui curait les dents.
Elle lui passait le fil dentaire.
Non, elle brossait les dents avec comment vous appelez ça? Une brosse à ongles. Oui.
Vous avez des mœurs curieuses,
Claude Sarraud.
Oui, non, mais c'est facile pour elle peut les enlever. Alors, évidemment,
elle lui passait un cure-dent après le petit déjeuner.
Elle ne lui faisait rien à lui directement, elle préparait ça avant qu'il entre.
Elle lui mettait le dentifrice sur la brosse à dents.
Elle lui mettait le dentifrice sur la brosse à dents. Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Mais attendez.
Non, mais c'est pas ce qui fait perdre le plus de temps, quand même.
Attendez.
C'est pas possible.
À Buckingham, il y a un gars qui est payé pour faire ça pour la reine.
Oui, mais c'est Buckingham. Alors que Madame Freud, quand même, c'est quand même étonnant qu'une épouse aille jusqu'à mettre du dentifrice sur la brosse à dents. Mabi fait ça, vous.
Bah oui, sinon c'est deux coups dans la tronche.
Non, ce qui est étonnant, c'est que tu te laves les dents.
Vous avez fait ça pour vos maris, vous, Claude? Mettre la pâte dentifrice sur la brosse à dents?
Non, mais t'es malade.
Pourquoi je suis malade?
Moi, je le sais, parce que j'en ai. Il m'arrive même d'en mettre trop. Quand je dois sortir, comme par exemple c'est aujourd'hui
trop
avec
dedans.
Vous, ben oui, je prends toutes les dents qui traînent dans la salle de bain.
Elle a quatre rangées, on dirait un brochet.
Je les mets.
C'est ça qu'elle doit faire, Rachida Dati.
Je les mets, et puis...
Mais attends, en principe, il n'y a pas...
Et puis, par exemple...
Et pourquoi vous avez plus de dents qu'il vous en faut?
Oui.
Ben, je ne dis pas pourquoi. Ben, ce soir, maintenant, il n'est pas très terriblement tard, mais j'ai l'impression que j'ai trop de dents.
Mais non, mais il y a un dentier pour le bas et un dentier pour le haut.
Ah, voilà, des fois, tu confonds. Pour le côté, il y en a plusieurs.
Ah, il y a plusieurs morceaux, votre dentier?
Mais naturellement, ça s'appelle des bridges.
Ah.
Mais ça ne s'enlève pas, les bridges.
Elle a un jeu de cartes, en fait.
Mais c'est très compliqué.
Oh, c'est un bordel là-dedans.
Bah oui, c'est toute une affaire. Ça me prend un bon quart d'heure.
Ça me rappelle encore une autre histoire, décidément, de Pierre Doris. Vous la connaissez?
Ah non.
Ah bah, c'est la dame qui est dans la salle de bain, puis elle prend un temps fou. Et le mari frappe à la porte. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien qu'on doit s'en aller. On a rendez-vous là dans une demi-heure, cinq minutes après. Il frappe encore à la porte. Elle est toujours pas sortie. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, il dit, mais je me lave les dents. Qu'elle lui dit, bah, et alors ça te prend autant de temps? Il dit, oui, mais je lave les tiennes en même temps. Une question pour Monsieur Fick. Que se passe-t-il?
Non, je voulais lui demander, vous n'auriez pas eu un tout petit rôle dans Les Casse-couilles? Vous avez...
Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait qui vous a embêté encore?
Il n'aime pas.
Keeping. La toilette, c'est on the floor. Moi aussi, moi, ma bonne parle anglais maintenant.
Mais enfin, Pierre, est-ce que tu sais que c'est triple deck?
Oui, mais c'est bon à savoir.
Ouais.
Mais ça sert à rien, puisqu'on ne sait pas comme ça que ça s'appelle.
Bon, je sens qu'il y a une tension entre Pierre Bénichou et Ariel Dombal.
Ouais.
Une tension?
Ouais.
On n'y croit pas, montre.
Vas-y.
Allez, Allez, ben... enlève ton slip.
Enfin, Isabelle.
Comme il y en a que pour Ariel qui est élégante, etc. Alors moi, je lui vends à fond la pièce à l'inverse parce que je peux pas concurrencer. Alors,
Vous avez déjà eu des passagères vulgaires comme Isabelle
Bah oui, il a eu Isabelle.
Il n'a pas besoin d'y tenir la tête pour aller à la sucette. Hein.
C'est vrai, il y a déjà eu des gens qui étaient mal polis à bord de l'avion.
Ils sont individualistes, les gens, je trouve. Par exemple, ils montent à bord, on a des journaux pour l'avion, donc ces gens prennent, ils en prennent 4, 5 d'un coup. Non. Mais ils savent très bien que je dis, 200 derrière, ils auront pu. Mais j'ai droit. Tu dis, bah oui, mais c'est pour les autres, quoi, toi. Et même, dans les longs vols, au milieu du vol, on fait des buffets avec des sandwichs.
Oui.
Mais tu verrais, quand j'amène la corbeille de sandwich, j'ai l'impression de rentrer dans un poulailler. Il y a tout le monde qui est autour de moi en disant « Qu'est-ce qu'il a ?» Parce qu'ils savent, ils sentent qu'il y a du manger dedans, tu sais.
Bah oui.
Et j'avance, et je les pousse avec les pieds, je dis « Poussez-vous !» Et je pose la corbeille et je jette dessus, t'es obligé de te sauver. Ils te mangent les mains, les gens.
Franchement... C'est vrai que c'est...
Tu vas pas retrouver de boulot en tant que steward, toi, après, hein. C'est fini ta carrière de steward.
Oui, mais non, parce que je parle de façon générique, je n'ai cité personne.
Mais moi, ce que je trouve très mystérieux, c'est le trou d'air.
Oui, c'est mystérieux.
C'est vrai que c'est mystérieux.
C'est mystérieux, effectivement, le trou d'air.
Vous donnez le bâton,
en fait,
là.
Tu sais d'où ça vient. Alors, avec mon petit... Je suis pas pilote, hein. Mais en fait, c'est une masse d'air chaude qui affronte une masse d'air froide. Elle se rencontre comme ça. Donc,
voilà,
c'est ça,
voilà.
Et c'est ça qui fait le trou d'air. C'est parce que le chaud, là, fait... Oh.
Mais quelquefois, il y a trou d'air et trou d'air. Hein.
Ah oui.
C'est ce que je dis toujours.
Il y a turbulence et flatulence. Hein.
Non, mais c'est impressionnant parce que tout ça monte, c'est saccadé, c'est très violent.
Vous avez déjà eu un avion qui a utilisé les toboggans pour sortir, vous?
Oui, parce que... Oui, mais c'était une hôtesse qui avait oublié de le désarmer. Alors, quand on a ouvert la porte, ça fait... Mais on était à l'aéroport et on a évacué personne.
Elle a dû se faire engueuler, dites donc.
Ah bah oui, parce que ça coûte cher de reconditionner un toboggan.
Ils le disent, hein, désarmer les toboggans.
Ouais.
Même on peut le faire. Hein.
Passer sur manuel, ils disent même. Mais,
c'est pour ça qu'on
doit prendre le malheureux manuel.
Ouais. C'est pour ça qu'on contre-vérifie tout le temps. T'sais.
Mais est-ce qu'en première classe et en économique, on a les mêmes risques?
Ah ben, c'est même mieux d'être en queue d'avion. Parce que quand on se crache, c'est d'abord devant. C'est les riches qui meurent en premier.
Ah ben, ils ont le droit à l'avant-première.
Oui, c'était une hôtesse qui me disait ça. Elle dit je vais voir en queue d'avion s'il y a des nouvelles têtes. Et l'autre, elle dit, ah ben, moi, je vais faire le contraire.
Mais le contraire, c'est quoi? Elle va voir quoi?
Elle va voir en tête d'avion.
Elle va voir s'il y a trop d'air.
Vous n'avez pas compris, Ariel.
Non, mais il y a une grossièreté là-dessous.
Non.
Ça dépend pour qui,
pour
hein.
Pour voir s'il y a des nouvelles têtes.
Ah oui.
En tête d'avion.
Ah, ça y est, j'ai compris.
Pour voir s'il y a un espadon.
Bon, une fois, on a été traversé par la foudre, moi, je me souviens.
Ah oui. Traversé.
C'est impressionnant. Ouais.
Tu le vois passer.
C'est un grand clash. L'avion devient tout blanc.
Oui. Ouais.
Et surtout, le steward dit rien, il nous regarde et il dit rien pendant 10 minutes et nous on se demande si on va mourir. Et heureusement, j'ai quelqu'un à côté de moi qui m'a dit « Vous inquiétez pas, je suis médium, c'est pas mon heure. » J'en ai déduit que c'est pas la mienne non plus. Quoi.
C'est mignon.
Vous avez des phrases comme ça pour rassurer les passagers, Jean-Phi?
Oui, moi je leur dis souvent ça. Vous savez, parce que les gens ils gueulent souvent, on a des retards ou machin. Donc je leur dis, vous savez, vaut mieux être en retard dans ce monde-ci qu'on avance dans l'autre.